Vous êtes arrivé sur la banquise, posez-vous sur le comptoir et dégustez vos sardines.
Bonjour à tous, c'est Morgane et je vous laisse une petite capsule audio parce que j'ai pas pu participer à l'épisode. Et voilà, je voulais vous donner des nouvelles parce que je ne suis pas sûr que je pourrais beaucoup participer aux épisodes suivants. Donc moi je suis... J'ai décidé pour cette année de me prendre une petite année sabbatique et de bouger en Amérique du Sud. Donc là je suis genre sans travail, sans rien. J'ai mis des sous de côté et puis là je commence par l'Argentine, je suis à Buenos Aires. Je suis en train d'apprendre l'espagnol. Je fais pas grand chose de mes journées, mais le temps passe tellement vite, c'est un truc de ouf. Je travaille pas, je fais rien de mes journées et les journées passent à une vitesse folle. La vie en Amérique latine, c'est waouh, tellement différent de l'Europe. Tellement génial. Enfin, là c'est le début, donc j'ai plein d'étoiles dans les yeux. Voilà, donc je vous l'annonce un peu abruptement, mais voilà, donc du coup je suis en Amérique latine, donc le décalage horaire ça fait le décalage horaire et aussi le fait que je voyage, donc je suis dans les transports, je fais de la montagne, je fais des, je fais de la visite, je me balade beaucoup, ce qui rend ma disponibilité pour les épisodes vraiment douteuse et hasardeuse, genre je sais jamais ce que je fais. Je vis un peu à la sud-américaine, c'est-à-dire que le matin même quand je me lève, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ma journée. Donc voilà, c'est plutôt cool, mais ce qui rend ma disponibilité plutôt faible. Voilà. Bon, je voulais quand même, parce que je suis un petit peu quand même un petit peu de loin, mais je suis quand même un peu les actualités. Je vous laisse, il y a un avion qui passe. Voilà. Ouais, je suis les actualités quand même un petit peu de temps en temps sur le libre. Et puis là, j'ai un article qui m'a fait réagir. Donc voilà, j'aurais voulu vous le partager avec vous. Donc je vais vous donner les liens. En fait, c'est deux articles. Le premier, en fait, c'est un article de Confluence qui explique pourquoi est-ce qu'ils ont changé leur licence. Alors, ils avaient une licence Apache 2.0 et puis ils ont créé leur propre licence. Donc, on va juste déjà remettre les choses dans le contexte. Confluence, c'est une boîte qui a créé Kafka. Et puis, ils ont décidé de ne plus... Kafka, donc Kafka, c'est un logiciel informatique qui permet de faire de l'événementiel, des événements, de traiter plein d'événements. Par exemple, ça a été développé en interne chez LinkedIn et en fait c'est ce qui permet que un utilisateur il a cliqué là, comment je gère l'événement de son clic, etc. Enfin bref, c'est un nouveau paradigme de programmation et il faut dire que Kafka c'est le truc qui a explosé en programmation là, c'est vraiment le nouveau truc à la mode quoi. Et ils ont donc c'est un système de gestion d'événements. Donc c'est le système de gestion d'événements, c'est vieux, hein, mais eux, ils ont révolutionné le truc. Parce que, si vous voulez, avant, souvent, l'intelligence, elle était côté serveur, et puis côté client, c'était rester le plus simple possible. Puis eux, ils sont arrivés en faisant, nous, on fait l'inverse. Le serveur, il est le plus con possible, et c'est le client, donc les programmeurs, qui doivent implémenter l'intelligence. Ce qui fait qu'on arrive à atteindre des niveaux de performance qui sont hallucinants. Et le logiciel, il est utilisé maintenant dans plein d'endroits. Et ça a commencé chez Confluence. Et puis, ça a commencé chez LinkedIn. En fait, c'est un mec, au début, ils n'avaient même pas chez LinkedIn les ressources pour le faire. Donc, il a commencé à faire ça sur ses vacances de Noël. Il a commencé à développer l'abri de logiciel parce qu'ils en avaient besoin en interne. Et puis, ça a été utilisé dans les produits en interne chez LinkedIn. Puis, petit à petit, ça a grandi. Puis, ça a été open sourcé. Et ça a été open sourcé en licence Apache 2.0. Donc, en gros, Apache 2.0, c'est tu fais à peu près ce que tu veux. Enfin, c'est une licence très, très permissive. Et donc, il y a un composant qui s'appelle KSQL. Donc, comme Kafka SQL, qui permet, en gros, un langage pour pouvoir traiter les événements, filtrer les événements, faire des recherches sur ces événements qu'il gère. Qui est le nouveau truc qu'ils ont lancé cette année, je crois, ou il y a 2 ans. Et puis, ce qui se passe, c'est que tous les providers, tous les providers genre Amazon, Microsoft avec Azure. J'ai plus de trop d'autres noms en tête, c'est Alibaba, Google et tout ça. Alors Alibaba c'est le site chinois. Et du coup ce qu'ils font c'est qu'ils prennent ce petit truc là, KSQL, puis ils en font du service, KSQL as a service. Donc en fait les providers de cloud là, leur but c'est de faire du as a service. Et puis eux ils ont réagi en disant voilà, maintenant on va changer la licence, donc vous pourrez faire tout pareil, sauf que quand tu es un provider, t'as plus le droit d'utiliser notre logiciel open source as service. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, Confluent. Donc ah oui, parce que du coup la boîte, enfin le produit chez LinkedIn a tellement bien marché, enfin beaucoup de boîtes qui ont adopté le truc, ils en ont créé une boîte Confluent qui se charge de prendre soin de ce Kafka. Et donc voilà, cette boîte Confluent ont décidé de changer le modèle open source et ils expliquent. La licence open source, et voilà, ils expliquent et ils disent voilà, il y a deux choses qu'on a peur en faisant ça, c'est que un, vous croyez que notre boîte elle a plus d'argent, ce qui est faux, ils ont encore pas mal d'argent, et deux, que vous croyez qu'on fasse ça pour gagner plus d'argent. Et là leur réponse elle est assez douteuse, parce qu'ils disent ouais non, je vous rappelle quand même que on a créé cette boîte c'était pour changer le système de gestion des événements. Enfin c'est une réponse un peu évasive, donc bon, pour moi c'est quand même clairement pour gagner un peu plus d'argent. Anyway, le lien de l'article sera en commentaire, enfin sera dans les show notes de l'émission. Et en fait, à ça, il y a un mec qui a répondu un autre article super intelligent, qui est un peu dans le thème de l'émission. En fait, il compare un peu le modèle économique de l'open source aux enfants, on va dire, voilà, donc le modèle open source des enfants, le modèle économique de l'open source, ça, c'est il y a 20 ans en arrière, c'était un peu comme un enfant, il a grandi, et maintenant c'est un adulte, ça fait 20 ans que ça existe, ça a prouvé que ça fonctionnait, et il arrive à ce qu'il appelle la mad life crisis, la crise de milieu de vie. Voilà, donc là, avec en fait ces nouveaux providers, avec ces nouveaux ces cloud providers, il explique que maintenant le modèle open source il est un peu chamboulé, parce que ce qui se passe c'est que ces cloud providers, c'est pas leur métier de faire de l'open source, eux leur métier c'est de faire du as a service, donc tu payes pour ce que tu consommes quoi, et ils font du service, enfin ils offrent des commerciales pour ça, et puis en fait ce qui se passe c'est que ils redonnent pas du tout à la communauté open source, tu vois, normalement la morale voudrait que je suis désolé, il y a un petit peu de bruit autour, alors je m'éloigne, voilà, c'est le camion poubelle qui passe récupérer les poubelles. Voilà. Donc là, ouais, la morale voudrait que normalement ces cloud providers reversent quand même un petit peu de leurs bénéfices aux sociétés open source pour qu'elles puissent continuer à développer leurs produits, parce que plus leur produit sera bon, plus ils pourront le vendre. Mais bon, dans la réalité, c'est pas du tout ça qui se passe. Et il dit que voilà, il y a des compagnies qui sont vraiment horribles, qui savent pas en fait comment, des boîtes qui savent vraiment pas comment gagner de l'argent, alors du coup leur première réaction c'est de brider leur logiciel en disant voilà, vous ne pourrez plus jamais faire du software as service. C'est par exemple le cas de Ghostscript, nous on avait eu le cas dans notre entreprise où on faisait du as a service, mais on utilisait Ghostscript pour faire de la transformation d'image, et puis ils ont simplement changé la licence en disant en la passant sous LGPL, non pas LGPL, AGPL ou LGPL, je ne sais plus laquelle des deux, ce qui interdisait de faire tout, purement et simplement du as a service. Alors nous, quand on installait le logiciel chez le client, on avait besoin de cette brique logicielle pour faire de la transformation PDF, et puis voilà, on ne pouvait plus le faire au niveau des causes légales, donc on a été obligé de ne plus suivre la montée de version de Ghostscript. Bon, ça c'est la pire réaction qu'on peut avoir, c'est clairement des gens qui ne savent pas comment faire gagner de l'argent avec leur logiciel. Il y a des réactions un peu moins pires, justement, comme celle de Confluent, qu'il a citée en réaction. Mais en vrai, genre, il dit, le problème de ces choses-là, c'est que ça résout pas vraiment le problème. Ouais, ça empêche les grosses boîtes de gagner de l'argent, mais ça résout pas vraiment le problème. En fait, il va se passer deux choses à réagir comme ça, c'est que les cloud providers, ils vont non plus offrir un service basé sur le software, mais plutôt sur une autre implémentation open source du logiciel. Ou alors, ils vont réutiliser la brique logicielle pure, enfin la brique open source pure, et ils vont développer leur brique autour, qui ne vont évidemment pas redonner à la communauté. Donc, dans les deux cas, c'est absolument horrible, parce que dans le premier cas, le fait de se baser sur une autre implémentation, et ben ça va absolument pas aider l'adoption par une communauté. Enfin, ça va faire que plus fragmenter les choses, ce qui est absolument pas. Enfin, quand on construit un logiciel open source, ce qu'on veut, enfin, ce qui fait son succès, c'est justement l'adoption par la communauté, la participation et tout ça. Donc, première solution, ça va juste tuer le logiciel, enfin, du moins l'empêcher de grandir comme il devrait grandir. Et la deuxième solution, ben super, les mecs, ils vont développer leur brique à eux, puis ils vont évidemment absolument pas la redistribuer à la communauté. Donc, on voit bien qu'on est dans une impasse. Et voilà. Et donc là, comme on dit, il y a une crise qu'on est en train de suivre l'open source. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on en parle que ben, l'open source, c'est pas du tout le modèle open source. Il est pas du tout penser pour le cloud, là, comme c'est le cas, comme ça devient la mode sur Internet, que tout est as a service sur Internet, par des API tiers, et qui protège pas, bah, justement, enfin, qui protège pas du tout ça. Donc là, on arrive justement à une nouvelle crise de l'open source dans l'informatique. Donc il va falloir réussir à trouver une solution. Et il dit que, enfin voilà, le gars, il est vraiment, il est dans son article, bon, il est en anglais, mais genre il dit des trucs vraiment pas bêtes. C'est genre, il compare un peu ces modifications de licence au livre. Bah, genre, les copyrights de ton livre, ils peuvent t'interdire de photocopier des parties de ton livre, de le lire à haute voix, de le lire à haute voix pour que les gens, enfin voilà, pour protéger la propriété actuelle, ce qui est plutôt bien. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, en changeant les licences, en disant bah non, toi, si t'es un cloud provider, t'as pas le droit de l'utiliser, ça reviendrait à dire bah t'as pas le droit de lire ce livre dans telle compagnie aérienne parce que je l'aime pas, t'as pas le droit de poser ton livre à côté d'un autre livre, d'un autre éditeur parce que je l'aime pas. Enfin voilà. C'est pas du tout une réponse appropriée pour lui, et il rappelle quand même que bah, il y a quand même alors, il y a un autre article, celui-là il faudrait que je le lise plus, mais ce qu'il est beaucoup plus long, c'est comment créer un sustainable, enfin en gros comment créer un modèle open source viable et solide. Donc il link l'article, donc celui-là il faudra que je le lise et que j'en fasse un résumé, parce qu'il a l'air super intéressant. Enfin c'est pas un article, c'est même carrément un livre, par un mec qui a été écrit par un mec bah, qui a réussi à faire un logiciel. Une fois qu'il a réussi à gagner de la machin, mais en gros, il rappelle quand même qu'il existe des moyens de faire de l'argent avec de l'open source sans aller bloquer le cloud, le software as service, le as a service. Bah, les moyens simples, ça reste quand même de faire de la maintenance, du support, de la formation, enfin les trucs habituels. Ça, c'est ce modèle-là, il est épuré et il fonctionne. Donc voilà, il est épuré, il fonctionne, et il dit quand même qu'un bon logiciel open source, c'est en fait un logiciel qui vient d'une entreprise, qui le fait en interne, et que quand il le publie, bah, il a gagné à être adopté. C'est-à-dire que bah, les gens vont l'adopter, ça va créer une communauté, ils vont contribuer, et ça va les aider eux en interne pour. Voilà, il dit ça, c'est les meilleurs logiciels open source qui existent et c'est les plus stables, on va dire, et les plus dans le temps qui vont perdurer. Donc voilà, je résume un peu parfois de manière aléatoire, on va dire, enfin avec les idées un peu désordonnées. J'ai
pas trop trop préparé l'enregistrement. Mais voilà, lisez ces deux articles. C'est en anglais et vous ferez votre propre avis. Moi, je trouve quand même que c'est intéressant. Le premier qui est, bah voilà, pourquoi est-ce qu'on a open source, pourquoi est-ce qu'on a changé la licence, et la deuxième qui est une réaction un petit peu à l'article en disant, ouais, la licence elle a changé, mais ça résout pas vraiment le problème de l'open source, enfin de l'open source qui est en train de vivre une crise vraiment avec le as a service, avec le cloud et tout ça, et qu'il va falloir réussir à trouver une autre approche que d'aller inventer des règles qui est genre bah non, tu liras pas mon livre, tu liras pas mon livre dans telle compagnie aérienne parce que j'ai pas envie. C'est si on peut se permettre l'analogie, c'est complètement ça. Voilà, c'était tout pour les articles. Comment ça fait un peu condensé là. Je voulais aussi recommander un troisième un article. Donc ça c'était pour le geekage, on va dire. Et pour les recos, je voulais recommander un article qui est pareil, super pointu, très très techos. C'est en fait un japonais qui est expert de PostgreSQL. Il a travaillé en Irlande et tout ça, donc son anglais est plutôt bon. Et il a écrit en anglais, je sais pas, genre un e-book, un livre, enfin voilà, c'est sur son site. Il a écrit donc avec des schémas et tout sur comment fonctionne Postgre. Et il allait vraiment très loin dans le cœur de Postgre, comment ça fonctionne. Et son truc, c'est une vraie bible. C'est vraiment plein d'informations super intéressantes. Il t'apprend pour comment ça gère l'écriture en base, la gestion dans la mémoire, les process, les trucs. Enfin, on va vraiment très très loin dans le cœur de PostgreSQL. C'est des choses qu'on ne sait pas forcément, qui sont très difficiles à savoir, à moins d'être un expert du code, d'être capable de lire, d'ingurgiter des centaines de milliers de lignes de code. Enfin voilà, donc le gars, il connaît bien le sujet, il a plutôt bien vulgarisé ça. Et donc, pareil, je vous le recommande. Je vous le recommande de le lire. Voilà. Donc, je tiens à m'excuser, enfin, pas vraiment à m'excuser, mais à dire que, enfin, voilà, que peut-être mes participations à l'apéro des papas manchots vont un peu diminuer. Je sais pas comment va être la dynamique à 3. Peut-être que sans moi qui arrête pas de poser des questions et qui interrompt les gens, ça sera peut-être plus sérieux, plus intéressant pour vous. Bon, c'est un petit peu ma patte de discuter avec les gens, d'échanger. Donc, on va voir si, je sais pas si ça vous plaira pareil, mais en tout cas, si vous sentez qu'il y a une différence et que vous aimez peut-être un peu moins, ou je ne sais pas, sachez juste que c'est temporaire. Je reviendrai quelques mois. Je vais essayer quand même de m'organiser pour enregistrer des épisodes, mais j'ai même pas d'écouteurs, enfin pas d'écouteurs, de micro-écouteurs. Vous savez, genre. Vous avez les écouteurs avec le kit main libre maintenant, enfin, dès que tu achètes des écouteurs, il y a le kit main libre avec. Bah, ici, en Sud-Amérique, c'est pas du tout comme ça. Hein. Il n'y a que les écouteurs, il n'y a pas du tout le kit main libre sur les téléphones. Du coup, j'ai rien absolument pour enregistrer. Donc, je pense que techniquement, ça va être très compliqué. Techniquement, en étant sur les routes, en étant dans les montagnes, en étant en voyageant de ouf, pareil, ça va être très compliqué de m'organiser au niveau du temps, genre au niveau du Framapad. Framadate, pardon. C'est absolument impossible pour moi d'avoir une visibilité sur plusieurs semaines. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez que moi, personnellement, j'adore ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre. C'est une super expérience. C'était le moment de la vivre parce que après, je vais être plus sérieux dans la vie. C'est-à-dire que je vais devoir m'investir un peu plus dans le taf, la famille, peut-être un appart, des choses comme ça. Du coup, faire un petit voyage comme a fait Fabrice à pied pendant un mois sur Calais-Mont-Saint-Michel. Voilà, moi j'ai les moyens financiers aujourd'hui de le faire pendant un an. Et donc pendant un an, je vais aller un petit peu sillonner l'Amérique latine et puis découvrir des nouvelles cultures, apprendre une nouvelle langue, parce que je suis absolument pas parlé l'espagnol. Et puis c'est super enrichissant d'apprendre plein de choses, de voyager comme ça. Pour le moment, c'est tellement génial. Et bah voilà, j'espère que en ressortir grandi à la fin de ce voyage. Et puis ça me fera beaucoup de choses à vous raconter, peut-être une autre façon de voir le monde. Et vous partirez peut-être qu'au fur et à mesure des épisodes des Papas Manchots, vous découvrirez un petit peu aussi un petit peu de cette culture sud-américaine que je pourrais inculquer. Donc voilà, je vous dis bonne journée à vous et puis bon courage Et puis bon épisode pour la suite, j'espère que vous l'aurez aimé et j'espère que vous aimerez les épisodes à venir.
Bienvenue, bonne année à tous, vous êtes à l'apéro des papas manchots, épisode 26.
Ouais.
Alors, je vais présenter les comparses, nous souhaitons chacun la bonne année de neuf pour cette année 2009. Ce sera l'intro la plus longue que vous n'aurez jamais entendue pour compenser le très peu connu.
Intro ASMR.
Intro ASMR. Alors, bonsoir Fabrice, comment vas-tu en cette année 2019?
Salut John, bah moi ça va bien. Rien de neuf pour 2019.
Tu n'as pas des poules à acheter?
Non, non,
pas de
poules.
Pour aller picorer?
Non.
Pendant que l'autre comparse commence à picorer dans sa petite bière, je veux bien sûr parler de Jean-Pierre. Eh ben non.
Ah, fais tout un slam.
C'est des cas.
Bonjour comment à tous et surtout très bonne année. Ça va super bien. Je suis ravi de vous retrouver. Et en plus, ça fait du bien parce que en 2019, je me suis dit bon, il n'y a pas beaucoup de contenu. On l'entend pas beaucoup. De temps en temps, John, vas-y, lance-toi, libère-toi, tel le papillon du la côte d'Opale qui s'est envolé en 2018. Toi, John, tu prendras ton envol en 2019 et tu partiras dans les cieux telle une licorne avec des grandes ailes.
La licorne, mêlée. Un autre s'en est allé.
Ouh.
Nous voulons bien sûr parler de Morgane qui devait être avec nous ce soir, mais pour une raison encore top secrète, est partie espionner. J'avais un autre mot qui allait rimer, mais... c'était
non,
pas très
non.
Enfant friendly donc, on va dire qu'il n'est pas avec nous ce soir mais il est avec nous dans nos cœurs. Peut-être il sera là pour la prochaine émission ou peut-être va-t-il nous envoyer un fichier préenregistré pour cet épisode-ci.
Peut-être.
On
ne sait jamais, on espère.
Donc comme je disais, ce soir on a très peu de contenu mais du contenu de qualité.
Et t'as surtout un truc important à faire après, hein. N'oublie pas.
Et oui. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on boit ce soir?
Bah, attends.
On va commencer par l'apéro.
Ouais, je pense qu'on a quand même une grande nouvelle, John. Parce que on t'entend bien.
Ah oui.
Mais bon, c'est ton gros morceau, là, pour ce soir. Je pense
c'était la nouveauté 2019.
Une bonne demi-heure de présentation. Sur ton nouvel outil.
Eh oui, vous voulez savoir quel est mon outil?
Eh bien, vous attendrez la fin.
Il est bleu, non pas parce que je l'ai pincé. Il mesure 25 cm.
Ouais, t'es pas un peu prétentieux là, John?
Au revoir.
C'est sa vraie taille. Que bien sûr, je parle de mon nouveau micro que vous pouvez entendre avec un filtre anti-pop. C'est le micro Newer. NW1500.
N'hésite pas à mettre le lien dans les notes de l'émission, John.
Oui, je vais les mettre après par la suite. Donc voilà, c'est un très bon petit micro. Comme j'ai pu le dire un petit peu, j'étais juste un petit peu déçu par rapport au socle en lui-même. Moi et ma flemme légendaire, j'ai pas voulu le renvoyer, mais le filetage du socle, il est un petit peu... le filetage est un peu foireux, donc en fait, le micro est légèrement penché, il n'est pas vraiment bien à la verticale. C'est le seul petit regret, avec la petite alimentation fantôme qui va bien. Donc voilà, un très beau micro, et je vais pouvoir fêter ça pendant l'apéro. Qu'on pourrait dire pour l'apéro?
Que tu vas fêter
qui
ça
c'est
en
qui veut se lancer en premier?
Bah vas-y, tu vas boire quoi pour fêter ça? Ton
alors,
célèbre
2019, wow.
Moi, je vais être au WAM. Je l'ai pas encore bu encore. Je dis beaucoup de conneries, mais c'est naturel. Hein. Bon, après, avec l'alcool et dents, peut-être que j'en dirai des meilleurs ou pas. Donc, mon petit rhum que j'ai arrangé moi-même en suivant une recette, et puis avec mes fails légendaires, et ben, j'ai refait une autre recette avec. Donc, c'est un petit rhum à la base, c'était long. Pendant la préparation, j'ai accidentellement renversé une petite partie de rhum, donc je l'ai complémenté avec de la cachaça, qui est une autre, c'est l'équivalent du rhum, c'est aussi fait avec du sucre de canne. C'est un alcool brésilien, donc voilà, on va dire il y a 75% de rhum et 15% de cachaça. Et il y a des pruneaux, histoire de pas avoir de problème avec la selle, de la mandarine, de la clémentine et de l'orange, de la cannelle, normalement. Mais moi, je ne l'ai pas mis. À la place, j'ai mis une gousse de vanille coupée en deux et l'équivalent de deux expressos en café. Et ça a laissé macérer pendant maintenant plus d'un mois et demi.
Et pour combien de litres tes deux expressos de café?
1 litre de rhum. Donc voilà. Alors malheureusement, vu que c'est moi qui l'ai fait et c'est enfermé dans une petite bouteille en verre, donc vous n'allez pas entendre le. Je peux le faire avec ma bouche parce que maintenant j'ai un bon micro. Et je peux le faire avec autre chose. Voilà. Ah. Je vais essayer de le faire écouter quand même le bruit du bouchon. Ah non, il est collé. Ah non, c'est bon. Et voilà. Donc, j'ai assez dispersé sur mon WOM. Bah tiens, qu'est-ce que tu bois, Fabrice?
Alors moi, il y a le Père Noël qui est passé, qui m'a offert un petit set de bouteilles de bière belge. Et là,
Ouais.
je vais tester la trappe, une triple trappe. Alors,
C'est dans
c'est
les
une
îles, il y a une trappe.
trappiste.
Ouais, c'est une trappiste, mais qui s'appelle, enfin, la brasserie, c'est en Belgique. Donc, on va goûter ça tout de suite.
Et non, le bras long, voyons.
Très, très bon jeu de mots. Alors, on fait de la mousse, c'est normal. Et toi,
Oh
décris-moi quoi?
là, alors, en fait, c'est la première fois que je fais ça. Je vais me faire un comparatif pendant l'émission. Alors, je viens de boire une. Alors, alors, je sais même pas comment j'ai vu ça. Je vous avouerai. J'avais une grande bouteille de Reflet de France, bière de garde du Nord. Et quand je l'ai goûtée, j'ai dit, tiens, ça me rappelle le goût de quelque chose. Et j'ai dit, tiens. Je vais goûter une autre et je vais l'ouvrir tout de suite, comme ça, et je me sacrifie pour la bonne cause. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir.
Tu voudrais insinuer qu'en fait, la bière Reflet de France, ce serait en fait une autre bière. C'est
Ouais.
ça?
Et
Ouais,
ce serait le goût de Goudal.
ouais,
Et je suis en train de goûter la Goudal.
ce serait bien possible.
Parce que c'est de la. En fait, c'est. Alors, c'est de la. En fait, je savais pas, mais Reflet de France, c'est Carrefour.
Ouais.
Et je dis tiens, ça me dit quelque chose, bière de garde du Nord et tout. Quand je l'ai goûté, je dis tiens, ça me rappelle le goût du Nord. Et justement, je vais la boire tout de suite.
Tout ça pour boire deux bières, quoi.
Comme s'il fallait une excuse.
Bah, c'est prêt. Alors, avec une légère amertume de plus, c'est quasiment le goût de la Goudal.
C'est peut-être la même
La
brasserie, et
même
puis
brasserie, à mon avis. Ouais,
ils font une
j'aurais dû
cuvée
garder l'autre
spéciale.
bouteille. Ouais. Alors, bah, elle a l'air d'être bonne, ta triple.
Bah écoute,
Elle a l'air d'être.
elle est bien
Ah.
jolie, ouais. Elle est assez claire pour une triple, elle est assez jaune.
Ça
C'est.
m'étonne qu'ils n'ont pas dit, tiens, ils font quoi avec ça? Du bœuf cuit, parfum à la bière. Ils disent pas qu'il faut la servir avec un petit peu de fromage, ça, parce qu'ils aiment bien servir ça avec du fromage en Belgique.
C'est vrai que
Ah
dans le Nord, on n'aime
ouais.
pas
Mais
le
toi,
fromage non
vrai
plus.
trappiste.
Ouais, et puis je t'ai dit, hein, hors antenne, là, ils ont reçu je sais pas quel prix européen de meilleure bière de je sais pas quoi 2018. Enfin,
Ouais.
ils ont un prix comme toutes les bières, quoi.
Oui, non, mais par contre, alors, Ouais, ça je veux bien, mais c'est surtout le label que c'est des bières trappistes. En général, c'est des bières de qualité. Mmh. Et pour avoir le label de bière trappiste, il y a que neuf bières trappistes dans le monde, dont 8 belges.
Ah, donc.
Et ouais. Et je crois que la 9e, c'est une autrichienne, je crois. Bière trappiste, on va regarder ça parce qu'on va faire une investigation.
Ah ouais, il faut faire.
Attends, et bière trappiste.
Fact-checking en direct. Hein.
Attention, hein, du fact-checking en direct.
ThinkViewer, vous voilà averti.
Ouais, non, mais c'est pas ça. Par contre, pourquoi c'est quoi ces nouveaux trucs? Vous avez vu la nouvelle page sur Wikipédia? Bienvenue sur Wikipédia, nanana. Wikipédia, aide pas à pas. Mais non, je veux pas. Moi, je veux juste que tu me trouves mes bières trappistes. Hop.
Oula, voilà. Je suis tombé chez les trappistes de l'ordre cistercien, c'est pas bon.
Donc il y a la Westmalle, la Westvleteren, la Rochelle, la Chimay, l'Orval, la Rochefort. Il y en a une aux Pays-Bas, la Trappe. Ah bah c'est pas une hollandaise ta bière plutôt?
Peut-être.
Trappe.
Peut-être, si, parce que je savais pas trop. Il me semble que leur site il se finit en NL, ouais. Donc c'est peut-être une hollandaise.
Si, NL, ouais, c'est Néderlande.
Voilà.
Il y a une française, il y a la Mondeca.
Ah oui, c'est vrai.
Et il y a une en Autriche, il y en a une aux États-Unis, il y en a une en Italie et il y en a une en Angleterre.
Donc c'est pas le Brabant wallon, mais c'est le Brabant qui doit être du Nederland. Voilà.
C'est pas loin de Efteling pour ceux qui connaissent.
Et non le bras long tombant.
Après, ça peut être le bras long tombant tant qu'il a déjà été raide une fois. Ça sera toujours une bonne possibilité. Bon, John, tu sais que tu as oublié quelque chose d'encore important dans ton animation.
Bah écoute, j'étais en train de me désaltérer un petit peu pour voir si j'allais mieux enchaîner. Car effectivement, on a oublié la longue liste de remerciements.
Ah, voilà, c'est bien, tu l'as retrouvé.
Tu vois, je ne l'avais pas oublié.
Bah ça vient après l'apéro, ça c'est bon. C'est...
Ouais, et on a les commentaires aussi.
Ah,
ça, il faut aller sur le site direct, ils sont dessus. Hop là.
Ouh. Alors, eh ben, on va commencer par les remerciements des auditeurs qui nous écoutent. Il y a bien sûr Dark Redman, PB Belfond, Z6PO, AR Strat, VP SZ, Alain, NHX, Anthony, Emmanuel Vera, Akumetsu.
Et on en a peut-être oublié.
Et on a sûrement oublié.
Martin Swilling, là, tu l'as pas cité, ça.
Martin Swilling aussi.
En fait, c'était pour éviter que, justement, avec mon nouveau micro, qu'on entende bien ma dyslexie au moment de la prononcer.
Et a priori, ce Martin Swilling, il nous écouterait des États-Unis.
Ah.
Ouais. Et on a eu deux commentaires également, John.
Oui, les commentaires. Alors. Je propose un petit bruit blanc pour faire comme
ouais,
si je
venais
tout de suite
fera,
sur la
ça
main.
Ça fera juste un blanc à couper au montage. N'est-ce pas, John?
Et est-ce que c'est celui qui anime qui monte?
Ah ouais, tiens. Il y aura ce que c'est de passer du temps à couper les blancs.
Alors, c'est bon, t'y arrives? Ou tu bois encore?
Alors, pendant qu'il cherche à meubler, moi, je voulais juste remercier... tous les poditeurs qui nous ont écoutés pendant les fêtes, parce que c'est un épisode que je pensais pas qu'il aurait si bien marché que ça, et il a plutôt très bien marché parce qu'on est à plus de 1100 téléchargements pour un épisode entre les fêtes, enregistré un petit peu à l'arrache. C'est plutôt bien et je suis très content du score des téléchargements.
Tu penses vraiment qu'il y a 1100 écoutes?
Ouais, partiel ou total.
Ou en plusieurs fois, mais bon, l'épisode était pas long.
Ils ont coûté au moins plus de la moitié, en moyenne.
Ouais, ça me paraît beaucoup.
Très bien.
Ça me paraît beaucoup, mais bon.
Bah, je te renvoie les chiffres quand tu veux.
Non, mais je mets pas en doute, hein. C'est juste que la façon de compter, parfois, elle me paraît un peu bizarre. Je me demande si le référencement par les sites, il doit pas un peu fausser tout ça. Enfin, en tout cas, si vous êtes plus de 1000 à nous écouter, faites-nous un petit signe parce que
comment
il nous en manque. Il nous en manque.
Faut qu'il se
il nous en manque. On a qu'une dizaine.
Je vous propose de laisser des commentaires sur l'article de cet épisode-ci, donc.
Ouais.
Et par ordre, vous mettrez numéro 1, ensuite, la personne qui arrivera ensuite mettra numéro 2, et ainsi de suite.
Et le millième, qu'est-ce qu'on lui offre au millième? On lui offre une triple carmélite.
Non. Et
une photo dédicacée des mecs
d'hiver,
avec la fourrure en mouton.
Je offre un Raspberry Pi modèle B. Je déconne pas. Hein.
Pour le millième.
Si on a 1000 commentaires, j'offre
un Raspberry Pi modèle B
à celui qui postera le millième commentaire.
Ouais, mais un par personne, parce que sinon,
bah, t'as oublié,
c'est un par personne.
Parce que tu vas avoir des spams sinon.
C'est un par personne.
Non pas un par adresse email.
Et attention, je peux surveiller les adresses IP des commentaires. Donc,
vous êtes
suivi. Il faut qu'il y ait 1000 adresses IP différentes. Et s'il y a les 1000, le dernier, je le contacte personnellement et je lui envoie un Raspberry Pi modèle B.
Je pense que même 100, ça serait déjà dur, mais bon, admettons.
Bon, allez, même s'il y a 100. 100 commentaires sur le même épisode. Hein.
Et bien, en parlant de commentaires, je vais pouvoir remercier Z6PO, toujours le même.
Le fidèle.
En plus, la blague dedans, c'est que c'était par rapport à ma recommandation du mois de décembre, et qui était... que je commence par
le
premier.
Le
à propos de Scratch.
Goulage.
Oui, à propos de Scratch, il est possible d'installer la version 3 en local, donc il donne le lien de LudoScience.
Mm-hmm. Et moi, j'avais fait un petit tweet, là, justement.
Oui,
c'est sorti
parce que depuis, elle est ressortie.
Ouais, tout à fait. Mm-hmm.
Donc voilà, et bien sûr, par rapport au livre que j'avais... proposé, mais toujours Z6PO, le même, toujours chez Nathan, il y a Robolabo, Nathan.fr, et il nous a mis un lien vers la fabrique programme ordinateur avec le lien sur Amazon. Donc voilà, donc merci à lui, ou merci à toi, et que tu nous écoutes.
Tu peux, essaye d'être dans les 100.
Ouais, mais ouais, justement, moi je dis que c'est bon, allez, on va dire 100, mais ouais. Ça sera tiré au hasard dans les 100, parce que sinon ça va pas marcher.
Ouais,
c'est-à-dire que si tout le monde attend.
Mais Fabrice, te sens-tu être la main innocente qui va tirer au sort?
Tu fais un random sur 100 et c'est bon.
Ouais, on peut faire ça, sinon j'aurais mis 100 petits bouts de papier de 1 à 100, puis j'aurais demandé à une main innocente de tirer.
Si tu veux, si ça t'amuse.
Voilà.
On est dans l'apéro des papas manchots. Il faut bien faire servir les petits manchots, les bébés manchots à quelque chose.
Bah ouais.
Tu leur fais même écrire les papiers de 1 à 100. Comme ça leur fait réviser.
Ah, en parlant de réviser, et on a oublié de remercier pour l'épisode de novembre, donc, qui était en crossover avec Cédric de Burger Tech.
Oui.
Monsieur G-Side. On a eu 5 commentaires.
Ah, oui.
C'est vrai.
Et donc, Z6PO, hein, donc on le remercie à lui.
C'est vrai qu'on n'en a pas, tu as tout à fait raison parce qu'on n'en a pas parlé à l'épisode de Noël.
Et il y a Cédric, donc, c'est excellent ton rombo, c'est là, c'est ça là, j'adore. Acnot, très bon épisode avec Cédric, je n'ai pas vu le temps passer. Un grand merci pour la liste des podcasts dont celui de l'April me manquait. Bonne continuation. Merci pour le partage des podcasts, toujours à Knot, c'est que du bon. Eh bien, merci à vous pour vos commentaires, d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Voilà, vous pouvez venir partager avec nous sur le canal Discord de l'apéro des papas manchots. Vous retrouverez les liens dans la description, sur Twitter, @donkloyvert.
Ouais.
Adam Kloybert.
Sur le blog, oui.
Sur le blog, sur Facebook, sur Stratosphère,
ouais.
Sur Framasphère.
Oula, attends,
sur Jackie et Michel.
Ouais, c'est pas la même chose, hein, sur Jackie et Michel. Non, là, je pense pas. Si on a un canal sur Jackie et Michel, c'est pas nous. Hein. Non, je pense pas. Okay,
et donc, alors, qui c'est qui va commencer pour les notes et les infos? On va lancer Fabrice. Tu as Un petit problème de robot qui a du mal à être réparé?
De robot?
De boutage plutôt.
Du boutage de robot?
Ou de boutage de machine.
Ou d'ordinateur, de machine? De l'homme à la machine, de 1 et de 0, de 0 et de 1, de binaire.
Ouais, j'ai eu, ouais, il y a un petit mois, ouais, je sais plus, pendant les vacances, je sais plus quand. J'ai eu une mise à jour de mon ordinateur portable qui a foiré mon grub, donc le démarrage du boot. Il m'avait pas retrouvé ma partition Linux. Du coup, bah, j'arrivais pas à redémarrer sur mon Linux.
Ouais.
Et bah, il y a des moyens hein, pour s'en sortir. Il faut redémarrer sur une clé live, faire un ch root et tout ça. Mais bon, j'ai essayé, j'ai pas trop réussi. Et je me suis souvenu que j'avais déjà eu le problème et qu'il y avait un super outil pour ça qui s'appelle Boot Repair. Et de toute façon, quand on va dans les forums ou quand on tape problème de grub ou de démarrage, ils nous renvoient tous vers ça. C'est un vieil outil qui a été. Je pense que c'est quelqu'un de chez Ubuntu qui maintient ça. En fait, c'est une clé live, on met ça sur une clé USB ou sur un CD, et ça permet de réparer le grub. Il fait tout seul. Enfin, il faut suivre les instructions. Il remet tout ça au propre et on redémarre et hop, toutes les partitions sont retrouvées. Et donc, je voulais faire un petit comment dire une petite
Chapeau.
recommandation ouais d'avoir toujours ce truc-là sous la main parce que bah surtout pour ceux qui sont en dual boot par exemple ou qui ont un Windows qui a tendance à vouloir reprendre un petit peu ses droits c'est toujours bien d'avoir ça pour pouvoir retrouver sa partition Linux qui n'est pas du tout écrasée c'est juste le grub qui a pas retrouvé tous ses petits.
Ah, bah écoute, ça, écoute, tu vois, Fabrice, j'aurais su ça, j'aurais pas réinstallé mon vieux Windows à la place, quoi.
Ah,
Ah,
parce
tu
que
vois,
la
j'ai découvert un
partition.
truc qui est vraiment intéressant. Parce que, en fait, c'est souvent. Parce que c'est un dual boot avec un Windows, cette machine-là que tu parles.
Non, il n'y avait pas un Windows, il y avait, je sais plus, un Android. Tu sais, j'avais fait des tests
Ouais.
avec Android X86. Donc, j'avais une partition Android X86 et une partition Linux.
Ouais.
Et il m'avait retrouvé que le Android. Donc,
D'accord.
l'ordinateur démarrait, mais pas sur ma partition Linux, quoi.
Et tu pouvais pas la choisir. Et tu pouvais plus la choisir
Non,
non
elle
plus.
était pas dans, elle était pas dans la liste. Et
D'accord.
même si je me, si je démarrais en live et si j'essayais de faire une mise à jour du grub, ça marchait pas, ça, il trouvait pas.
Et donc tu supposes que c'était à la base, c'était l'Android qui avait planté, qui avait fait la mise à jour.
Non, c'est pas lui qui a. Non, c'est une mise à jour de Linux, hein, de ma Debian, qui a mis à jour le grub. Je pense qu'il y a eu une nouvelle version.
Ouais.
Mais au
Et qui
moment de.
supportait toi, Paul Dubouyal Bouche.
Non, mais au moment de chercher tous les. Alors je sais pas, parce qu'il y a une histoire de UEFI, tout ça, donc je pense qu'il a dû se mélanger les pinceaux, il a trouvé l'Android. Il a dû se dire c'est tout, c'est fini. Ou, enfin bref, il a pas trouvé. Il n'a pas trouvé mon Linux dessus. Donc, enfin, je connais pas bien la cause, mais l'important, c'est qu'avec un outil comme ça, on retrouve plus facilement toutes ces partitions.
Hashtag la clé GPT a foiré.
Non, mais
Ouais.
j'ai encore le disque dur avec la partition à part.
Ben, si ça se trouve, ouais, hein, si
Là, je
ça se
peux
trouve, t'as
essayer.
rien
Ouais.
effacé, hein. Si
Ouais.
même t'as réinstallé Windows, c'est ça?
Ouais, mais
Mais
j'ai changé de disque dur entre deux, donc.
Ah bah normalement, si t'as pas écrasé ton disque dur, ton Linux est
Ah non,
toujours dessus.
non, mais je l'ai juste enlevé, j'en ai rien d'autre, donc.
Hein.
Ouais, je vais essayer, tiens.
Ouais, parce que normalement, en 2019, c'était l'année Linux pour toi, non?
Ah,
Passé.
c'est l'année de beaucoup de choses, mais c'est l'année de trop de choses. Je
Sais pas.
m'éparpille de trop. Mais
Ok.
normalement, je reviens. Je reviendrai.
Et John, t'as déjà essayé Boot Repair, tu m'avais dit?
Oui. Bah, en début d'année, quand j'ai eu mon PC
Dernière.
de bureau, oui, en début d'année dernière, du coup, bah moi j'avais complètement foiré justement avec Boot Repair parce que il est quand même quand on fait quand on l'installe, en fait je l'avais installé via la Logitech, je l'avais pas mis en live, je l'avais pas utilisé en live CD tout seul, je l'avais
Ouais.
installé sur le
Il y a des PPA pour Ubuntu, je crois.
ouais. Et du coup, bah quand je l'ai installé, j'avais fait réparer. Et du coup, ça m'avait foiré justement pour la partition GPT.
Donc toi, ça t'a cassé.
Moi, ça me l'a pété, c'est pour ça que j'avais réinstallé tout, etc. Et puis, voilà. Mais bon, je mets, comme à mon habitude, j'avais fait ça sans réfléchir, sans regarder.
Et
Donc,
rassure-moi, John, les GPT, ça n'a rien à voir avec les flatulences.
Non, mais ça peut t'en causer quand tu fais comme moi, que tu vas trop vite et que après tu perds tout. Donc du coup maintenant, bah, pour éviter de GPT, eh ben je
Non,
sauvegarde, je backup de
mais par
manière
contre, non, plus
limite.
sérieusement, ces fichiers-là, c'est les fichiers de partition.
Du coup, tu as
D'accord.
foiré carrément tes partitions?
Ouais,
Mais ça
j'avais tout
foire pas.
foiré.
Ouais, mais ça foire pas le ski. Ça ne foire pas la sauvegarde des fichiers qui sont enregistrés dans ton OS. C'est juste
Ah non,
la partition du
c'est
grub, en
juste au niveau
fait.
du boot, voilà.
Ouais.
Juste, bah voilà, si t'as que ça, si t'as qu'une seule, comment dire, distribution installée, bah tu le lances plus, quoi. Tu restes sur le mode du BIOS qui te dit, eh ben y a rien, choisis autre chose pour démarrer, ou alors branche un câble Ethernet pour démarrer en réseau, ou insère un support dans le
Mais t'as
DVD.
plus de partition de boot, c'est ça en fait.
RTFM
Ouais.
aussi. Il te met pas
Et oui.
RTFM.
Et oui, et oui. Mais bon. Après, bon bah ça m'avait permis aussi de tout réinstaller proprement. Donc c'était un mal pour un bien.
Bien, bien, bien.
Et voilà, il n'y a plus d'autres remarques sur Boot Repair?
Non.
Tout a été réparé? Ah 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 ah. Alors, en parlant de réparer, qui c'est qui va nous parler de
Vas-y, choisis.
VLC?
Ah, alors, c'est moi. VLC, bah, je pense que tout le monde connaît, hein, depuis le temps que ça existe. Je crois que VLC, ça fait tout sauf le café. Je crois que s'il y a bien un logiciel qui est indispensable sur n'importe quel PC, c'est VLC. Et tout type de fichiers audio, vidéo, les flux RSS, les flux streaming, ça lit tout, 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 tout. Et alors, il y avait deux news importantes. La première, c'est quand même que ça vient de dépasser plus de 3 milliards de téléchargements. Donc le logiciel français le plus téléchargé dans le monde, c'est VLC et c'est un logiciel libre, et c'est tant mieux. Mais alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'est pas encore sur Switch. Il apparaît uniquement bientôt, il va peut-être apparaître en bêta. Et d'après ce que je lis sur l'article, il n'est pas non plus sur PS4. Et par contre, on le retrouve déjà sur la Xbox One. Ce qui est surprenant, c'est que je suis assez surpris qu'on trouve. Alors, moi, alors je dis peut-être une bêtise. Toi, John, t'en as une, mais je vois pas l'intérêt d'un VLC sur ce type de console. Maintenant, je dis peut-être une bêtise. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Bah après, c'est peut-être aussi pour pouvoir permettre d'installer, de regarder les vidéos. Quand tu vois que par exemple sur PlayStation, eh ben t'es obligé de passer par le PlayStation Plus, je crois qu'il s'appelle comme ça,
Ouais.
ou Microsoft aussi, pour regarder les vidéos que
Bah non, a
t'as
priori,
pris
il est
chez
déjà sur
eux.
l'Xbox One, VLC.
Oui, mais
Sur Xbox,
sur
tu mets
Xbox.
comment? Tu mets comment les jeux? C'est sur DVD?
Ah oui, c'est
Ouais.
encore, t'as encore des supports physiques, hein.
Mais donc c'est pour pouvoir me lire les DVD sur ta Xbox?
Ouais.
T'as le, oui, mais t'as le truc de base,
T'as
si c'est
déjà un
comme la
lecteur? Ah
360,
oui,
t'as
hein,
déjà un lecteur.
oui, tu t'as un lecteur normalement, parce que c'est du micro, bah c'est du FreeBSD via Microsoft, donc oui, il doit avoir un lecteur dedans.
Oui,
Après, c'est
sur,
vrai que l'avantage de ça, c'est que tu mets n'importe quel support physique avec un n'importe quelle extension multimédia, VLC, ça va te le lire. Ça, je suis
Puis en
d'accord.
plus, tu peux ajouter les sous-titres, tu peux modifier des tas de paramètres dans tous les sens. Si tu veux modifier, je sais quoi, les proportions de
Voilà.
l'image, enfin tout ce que tu
Autant je
veux.
suis d'accord sur de la console de salon, sur une portable, bah c'est vrai que c'est une portable et une console de salon, bon, ouais, j'ai
Bah,
un peu de mal. Hein.
si elle est branchée sur un projecteur, par exemple, comme ça tu mets ton film dessus.
Non, mais la Switch, tu peux la brancher sur une télé, hein.
Ouais. Mais du coup, tu peux lire n'importe quelle vidéo directement sur ta télé par l'intermédiaire de ta console. Non?
Ouais.
Bah, de toute façon,
tu prends un Fire Stick, tu prends un Chromecast.
Ouais, mais du coup, t'as pas besoin.
T'as pas besoin de mettre 30 euros de plus, ouais. Bien sûr. Bon, ça fera économiser 30 euros. Mais voilà, c'était surtout encore une fois pour féliciter VLC de son incroyable diversité et de son tant sur les supports sur lesquels c'est supporté et les fichiers qu'elle supporte, que ce logiciel supporte, c'est tout simplement incroyable. Moi, j'attends que ça fasse le café, ça sera parfait.
Non, mais ça va être comme Doom, tu sais, il y a... Doom, ça a été porté sur n'importe quelle machine. Bah, VLC, c'est pareil.
Ah ouais. Non, mais Doom tourne, je crois que Doom tourne sur une calculatrice maintenant.
Bah ouais, sur les lecteurs MP3, ça tourne sur tout.
Hein. Ah ouais. C'est incroyable. C'est vrai que je crois qu'ils vont bientôt, ça va être le logiciel multimédia qui va partir avec les explorateurs de Mars, ce truc-là. En tout cas, félicitations à eux.
C'est tout ce qu'il y a comme remarque pour VLC?
Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute de plus, John? Moi, je veux bien te faire des compliments.
Qu'il y a plein de fonctions cachées dans VLC, par exemple. Avant de lire une vidéo, vous pouvez mettre en puzzle, et c'est à partir de l'image. Oui, c'est dans les petits plugins. Alors ça, je ne sais pas si c'est dispo sur les autres versions, mais je sais que sur la version PC, t'as des petits plugins qui permettent de faire ça. En plus de resynchroniser les sous-titres, comme disait Fabrice tout à l'heure, d'incorporer les propres sous-titres. Là, il y a eu la version 300 pour les vidéos en 360 degrés qui a été incorporée. Et ils ont été présents au CES 2019. Donc bravo à eux.
Ah bah oui, bah ils ont fait la base, leur 3 milliardième téléchargement.
Pour les vidéos, qui était pour regarder parce que la bande passante était pourrie dans le Nord. C'est quand même pas mal. Ah, c'est selon l'un des créateurs de vidéos, là, non? Je vais essayer de retrouver là où j'avais entendu son interview. Je crois que vous pouvez la retrouver en téléchargement sur freetorrent.fr.
Et je crois que d'ailleurs, le créateur de VLC, il a reçu la Légion d'honneur.
Ah bon?
Ah ouais.
Et est-ce qu'on a déjà dit pourquoi le logo de VLC, c'était un petit plot?
Alors, je sais pourquoi ça a été créé. C'était créé à l'école centrale de Paris pour que les étudiants puissent capter la télé ou des flux vidéo. Mais après, je sais pas pourquoi c'est un plot.
Tu sais pas, John?
Non, j'ai peur de dire une bêtise.
Bah, en fait, c'est à ce moment-là, je sais pas si vous vous souvenez, sur les sites, quand c'était en travaux, on mettait un petit plot.
Oui.
Quand le site était en maintenance ou n'importe. Là, du coup, ils avaient commencé à développer un truc, ils avaient mis le plot parce que c'était en work in progress, quoi. Et à un moment, je sais pas, ils ont sorti la dernière version, enfin, une version viable, et puis ils ont gardé le plot, et c'est devenu le logo. Tout bêtement.
Comme quoi, des fois, sachant que c'est l'un des logos les plus connus.
Un cône de chantier.
Ouais, voilà, de chantier.
Eh ben, c'est très sympa. Bon, vas-y, John, on va enchaîner.
Et donc, en parlant de chantier, maintenant, on va parler peut-être du chantier de smartphone.
Ouais.
Et
parce qu'il y a du choix sur les smartphones. On a fait pas mal de news de smartphones cette semaine.
Et
ce
mois-ci,
pardon.
Eh ben, on va passer à Fabrice, du coup. Qui veut t'écoogliser son téléphone.
Ouais, alors moi, je vous l'avais dit, je sais plus, il y a 2 mois, je pense, que j'avais un nouveau téléphone sous Android. Et l'objectif, ça serait à terme de passer par une ROM alternative. Mais bon, comme c'est un modèle assez récent, il n'y a pas encore. Alors, j'ai pas totalement, enfin, c'est pas complètement perdu parce que le téléphone est... je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Treble Project. Projet Treble. C'est Google qui lance, à partir d'Android 8, une base commune où, ça sera beaucoup plus facile de mettre des versions, des ROM custom. Il y aura une base commune et ça sera très facile d'aller y mettre n'importe quoi. Et donc, normalement, LineageOS devrait pouvoir tourner dessus.
Bon, excuse-moi de te couper par rapport juste à LineageOS. C'est pas ce qui remplace CyanogenMod?
Si.
D'accord.
Mais c'est un exemple, hein, ça pourrait être, je sais plus, il y a plusieurs ROM alternatives, hein, il y a aussi, attends, aidez-moi, vous en connaissez d'autres ?
Il y a pas cette... Non, Selfish, c'est propriétaire, ça.
Il y a Remix quelque chose, là, ce dont tu avais parlé.
Remix.
Hein ?
Remix OS, non ? Pas un truc comme ça ? T'inquiète pas si on dit des bêtises, ils vont nous corriger dans les notes de l'émission.
Ouais, voilà, on va lancer des pistes, mais.
Enfin, en fait, c'est un test pour savoir test si vous avez plus de 1000 à nous écouter.
Ouais, voilà. Ils pourront nous donner des pistes et avoir, pouvoir mettre un commentaire.
Ou nous bref. Dire qu'on fait du caca, mais tant que ça a argumenté.
Bref, bah, moi, le principal problème que j'ai avant ça, c'est qu'il faut débloquer le bootloader. Et pour ça, il faut avoir un Windows sous la main parce que j'ai essayé en virtualisation et ça marche pas super bien, quoi. Le téléphone est pas détecté, il manque toujours des drivers à la con. Et par contre, j'ai trouvé une solution beaucoup plus simple et qui peut être faite très très simplement. Il suffit de pouvoir d'activer le mode développeur. De connecter son téléphone sur l'ordinateur.
C'est comme routé, ça.
Non, c'est mon téléphone n'est pas routé, mais en fait l'objectif c'est juste de désinstaller tout ce qui est Google, parce que j'ai beau les désactiver, leur dire non, je veux pas t'utiliser, dès qu'il y a une mise à jour ou n'importe, tu vas voir et il y a toujours les droits qui sont réactivés sur des trucs, ils vont voir tes appels téléphoniques, ils vont voir tes mails, ils vont voir tout ce qu'ils veulent. Donc moi je les installe, les applications Google, je veux plus en entendre parler. Donc j'ai trouvé un moyen simple de les désinstaller mais sans avoir routé le téléphone. Et simplement en se connectant avec ADB sur le téléphone, il y a une commande toute simple à lancer pour virer l'application. Alors après, il faut pas faire peut-être trop de conneries, parce que si tu as besoin après de l'application, c'est peut-être plus compliqué. Mais moi, j'ai viré tout ce qui est, je sais pas, Gmail, tout ce qui est YouTube, tout ça, j'ai viré. Mmh. Et j'ai eu aucun problème, et du coup, ça vient plus me casser les pieds.
Bah, c'est vrai que moi, ça me paraît un peu utopique, parce que moi, de virer ça sur un Android de base, bon, maintenant, faut voir si ça tient jusqu'à la prochaine mise à jour.
Ouais, mais après, j'ai...
Mais t'arrives à virer Chrome et tout? Non, t'arrives pas à virer Play Store.
Si, j'ai viré Chrome. J'ai pas viré le Play Store pour l'instant, parce que j'ai peur que certaines applications que j'installe par APK directement, ils me disent que, comme j'ai plus le Play Store, ça marche pas.
D'accord. Donc,
mais bon, c'est pareil, hein. Si y a des auditeurs qui ont des retours là-dessus, qu'ils hésitent pas. Et du coup j'avais un petit exemple de par quoi je remplace YouTube. Enfin, je sais pas, vous utilisez quoi pour regarder vos vidéos sur votre téléphone?
Alors moi c'est compliqué parce que c'est un téléphone que j'ai récupéré de ma femme et c'est toujours YouTube.
D'accord.
Et après j'ai pas voulu regarder Dailymotion parce que je crois que Dailymotion c'est la poubelle des poubelles des vidéos.
Ouais, non, mais pour regarder les vidéos YouTube, tu passes directement par l'application native Android?
Sur mon téléphone, oui.
D'accord. John aussi?
Moi j'utilise PeerTube.
D'accord, ouais, c'est une des alternatives. Enfin, vous connaissez tous que...
PeerTube, ça se limite aux vidéos de PeerTube. Tu peux pas aller récupérer une vidéo YouTube et la regarder ailleurs.
Ouais, non, je crois pas.
Non, mais en ce moment, je suis plus PeerTube. Après, sur YouTube, je passe par Firefox qui est installé sur le téléphone.
D'accord, donc tu passes par le lecteur du Firefox.
Le client, ouais. Par le client web.
D'accord.
En session privée,
ouais. Ouais, bah moi je vais vous conseiller NewPipe, qui est une application qui va vous remplacer, enfin qui va lire les vidéos YouTube, ouais. Qui a plein de fonctions super intéressantes. Alors NewPipe, on la trouve on l'installe via F-Droid. Je sais pas si vous connaissez F-Droid.
Tout à fait.
Ouais, donc oui. c'est le magasin d'applications libres où il y a toutes les applications libres dessus. Donc ça c'est première chose à installer, et ensuite dans les différentes applications qui sont proposées, il y a donc NewPipe. Et NewPipe, il permet donc de voir les vidéos, d'éviter d'être pisté par YouTube et Google. T'as pas besoin de compte. Par contre, tu peux quand même t'abonner à des chaînes, c'est-à-dire que t'as toutes les chaînes que tu suis, et puis tu vois les dernières vidéos qui ont été diffusées par ces chaînes. Tu peux télécharger la vidéo ou l'audio. Tu peux lire en arrière-plan, c'est-à-dire que tu peux même lancer, tu te branches, tu as une musique qui te plaît, tu la mets en arrière-plan, Et ça te fait une, ça te fait une playlist, ça lit en continu. Et c'est une fonction qui est pas déjà présente dans YouTube, parce que dès que tu, quand t'es dans YouTube, dès que tu changes d'écran, tu peux plus écouter en général.
Oui, tout. Alors,
sauf
si
que maintenant,
c'est associé. Si t'as un compte c'est... associé, tu, ça va te créer un, ce qu'on appelle un mix, et ça va te mettre plusieurs musiques que t'aimes bien. En général, ça va pas te générer une playlist, ça va te générer des musiques que t'aimes bien, des vidéos musicales que t'aimes bien.
C'est une application, c'est une fonctionnalité qui est devenue payante, je crois. Qui est disponible
pour
mais qui est payante.
Hors écran,
non. Il faut YouTube. Ce qu'on appelle un mix YouTube. Non.
Non, mais Fabrice parle quand tu enlèves de l'écran.
Ouais, quand t'es
par
sur,
exemple, t'appuies sur le bouton.
Ouais, c'est le fameux. Oui.
C'est le Red.
C'est YouTube Red. Oui, YouTube Musique maintenant.
Tu peux même tu peux l'avoir en petit écran si tu veux aussi. Si tu veux en même temps naviguer ou faire un truc, tu veux, t'as la vidéo en petit écran si tu veux. Enfin, ouais. t'as vraiment plein de fonctions super intéressantes.
Ouais, c'est pas mal ça, parce que t'as pas, par exemple pour de la musique, t'as pas besoin de la vidéo quoi.
Bah non. En plus, du coup, il te télécharge que la piste audio, donc tu consommes moins de data en plus.
Mmh. Ah, c'est pas mal ça.
Non, c'est vraiment une application indispensable.
Ça mérite une petite note dans les liens de l'émission.
Ah bah oui.
Naturellement. Ah ouais, non, franchement, c'est pas mal ça. Parce que même si t'as besoin de YouTube, là, pour ça, franchement bien. Parce que moi, YouTube, c'est presque mon autoradio, quoi.
Non, puis en plus, du coup, tu peux même t'en servir pour écouter des podcasts, entre guillemets, si t'as des trucs, des grosses vidéos que tu veux regarder, mais que t'as pas besoin de regarder forcément parce que c'est une conférence, un cours ou n'importe quoi. Quelqu'un qui parle longtemps, bah, tu le mets en arrière-plan, tu l'écoutes comme un podcast, en fait.
Oh, ça va me faire dériver sur une autre, sur un autre sujet par rapport aux conférences sur YouTube, mais il y a des conférences qui sont vachement intéressantes. Voilà. Si vous voulez écouter des sujets juste, je vais pas m'éterniser, mais si vous voulez écouter des sujets hors du commun, des histoires de fous, vous les écoutez comme vous voulez, vous écoutez les conférences ou les vidéos d'Elisabeth de Caligny. De espace Caligny. Je n'en dirai pas plus. Ça s'écoute. C'est une personne qui compte très bien les histoires. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'image. Mais c'est des histoires de fous. Après, vous les prenez comme vous voulez. Hein. Mais voilà, des histoires de... Bref, incroyable. Elisabeth de Caligny. Et j'ai cassé l'ambiance.
T'as endormi John?
J'ai endormi John, ouais. Il est parti donner des croquettes au chien.
Et oui, non, en fait, réfléchir à... pour faire une belle transition.
Coquette.
Oui.
Faut préciser parce que nos auditeurs ils vont pas comprendre.
Oui, parce que hors antenne on déconne et on a découvert le nom de son chien mais on l'a déjà oublié. On sait plus si c'est Phuket ou Phuket. Phuket.
Faut penser à la Thaïlande.
Phuket.
Voilà.
Ah, Phuket.
Ouais, parce que tout à l'heure tu disais.
Ne la réveillons pas.
Phuket. Moi j'avais compris Phuket.
Tu disais croquette tout à l'heure.
Ah, tu sais Thaïlande t'aurais pu
non, ça c'est scandaleux aussi. Hein. Oui, mais bon, non.
Et ce qui paraît, en Thaïlande, les Lady Boys sont vachement respectés. Hein.
Eh oui, c'est un pays très ouvert.
Ah oui.
Effectivement, c'est des grandes histoires. Hein. Elisabeth de Caligny, là, je vois la première qui sort, elle a fait presque 4 heures.
Ouais, et c'est pas les monstres religieux de l'espace, non?
Non, c'est, je sais plus, Edith l'autre Piaf, chemin spirituel.
Ah oui, parce que Edith Piaf faisait beaucoup de spiritisme. Mais t'as aussi celle avec les montres religieuses de l'espace,
Oh, mais c'est que des trucs assez ésotériques, on va dire.
Ah ouais,
c'est entre deux heures et... C'est au moins une heure. Oui. Ah, d'accord.
Tu vois, j'ai une grande... Non, mais c'est un sujet que j'ai, genre, le spiritisme et le surnaturel. Donc, voilà, si un jour on veut faire une émission spéciale là-dessus, il n'y a pas de problème, je te fais 4 heures.
Tu connais les chasseurs de fantômes, je sais pas quoi, c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait une...
Ah oui, il y a même eu la guerre entre eux, hein, attention, hein. Ouais, il y a même le translibar, là, Jerry. Le possédé qui vous dans son
On ne parle pas d'escrocs sur ce podcast, s'il vous plaît.
Oh, John, s'il te plaît, c'est pas un escroc. Il est possédé par les démons et il danse en slip.
Oui.
Oh, c'est crédible.
Et ce monsieur appelle à faire des dons pour partir au Japon, et puis finalement, il se paye un paquet de cigarettes et de la vodka pour aller vomir dans des lieux enfermés. Oui.
Elle est pas trop allumée, là, celle que tu nous recommandes?
Ah non, et c'est l'ancienne avocate.
D'accord, donc elle fait des recherches très documentées.
Ah non, en fait, elle cherche des... Elle est passionnée de ça. Alors, attention, elle ne prend pas ça pour argent comptant. Mais il y a par exemple la dernière conférence qu'elle a faite, c'est sur un cold case typiquement français où en gros c'est une gamine qui ça se passe en 1922, ça se passe en Bretagne. Il y a une gamine qui disparaît du jour au lendemain, pas de nouvelles, qu'on la retrouve pas. Et un mois et demi plus tard, donc ça se passe en Bretagne, on retrouve une gamine dans une cage d'escalier à Rouen. Ou à Évreux, bref, une ville quoi, en Normandie, qui ressemble trait pour trait à cette fille de Bretagne. Elle porte des sabots, donc on dit des sabots en ville déjà, rien à voir, et la gamine complètement muette. Mais physiquement, elle ressemble trait pour trait à celle qui a disparu en Bretagne. Sauf que le problème, c'est qu'elle fait 15 cm de moins et qu'elle parle pas. Mmh. Et que, bref, je vais passer certaines étapes. Au bout de quelques mois, la gamine, elle est renvoyée en Bretagne, elle parle jamais à sa mère, elle retourne en Normandie parce que le juge ou quoi, il dit c'est quand même bizarre qu'elle s'intéresse pas à sa mère ou quoi, mais qu'elle est tout le temps collée à son père, et elle a jamais parlé un seul mot, et du jour au lendemain, elle commence à reparler breton. Mais ce qui est surtout bizarre, c'est que, entre deux, on retrouve un corps d'une gamine décapitée avec une tête décapitée à côté, mais qui est une tête d'adulte, et le corps ressemble trait pour trait à celui de la fille qui a disparu. Et je dis pas la suite, parce que voilà.
Bienvenue dans Chocotcast. Il manque la petite musique, un peu mystère.
Ah ouais,
attends, je peux vous la faire.
Non, ça c'est trop rythmé. Non, c'est trop rythmé. C'est trop rythmé, ça. Non, c'est.
Bienvenue dans les contes de la crypte de l'apéro.
Sinon, pour rester sur le sujet, et puis peut-être pour clore, parce qu'on s'égare, mais je te conseillerais le podcast In Tenebris. Je sais pas si tu connais. C'est un podcast qui s'est lancé, je pense, il y a 6 mois. J'ai écouté 2-3 épisodes, mais ouais, c'est sur ces sujets-là, globalement. Hein. Mais ouais, j'ai pas super accroché. Bon, c'est sur les poltergeists, les fantômes, tout ça.
Non, mais moi, je suis plus sceptique dans l'histoire, donc j'aime bien.
C'est un très bon podcast parce qu'il te montre le truc comment des faits qui sont racontés ou des livres qui sont faits, etc., ou des vidéos. Et puis après, il montre les doutes et les problèmes qui peut y avoir qu'on peut rencontrer là-dedans, quoi.
Tout à fait. Bah, ce qui est surtout le plus gros problème, c'est quand c'est des cas assez anciens ou quand c'est des cas qui sont basés sur des témoignages, tu te rends vite compte que il y a énormément de déformations. Et je vais juste faire une dernière parenthèse. Quand tu vois les cas d'observation d'OVNI, il y a le GEPAN, il peut t'expliquer plus de 90% des cas.
Mmh. Ouais, mais bon, tous ceux qui y croient, ils vont te le dire toujours qu'il y a 10% qui restent, quoi.
Ouais, voilà, c'est toujours pareil, je suis d'accord avec toi, Fabrice. Il y en a qui vont dire, oui, c'est bon. Voilà, quoi. Ils vont toujours trouver la petite bête queue. Mais les cas les plus connus sont souvent des bonnes quêtes assez facilement parce que, à fur et à mesure qu'il y a des témoignages, des mêmes personnes, tu te rends compte qu'ils rajoutent des éléments. 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, ils te rajoutent des éléments qui avaient même pas lieu au moment du premier témoignage, qui est déposé à la gendarmerie et tout, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a peut-être un peu d'imagination qui tourne, quoi. Même John ou quoi, on va te parler d'un sujet qui a rien à voir, mais quelques années plus tard, tu penses que ça s'est passé comme ça, tu vas parler à une personne qui était là au même moment, elle va pas te raconter la même version des faits. Même si ça n'a rien à voir avec le paranormal, ça peut être un événement festif ou folle, quoi, tu vois. Tu peux toujours avoir des versions différentes du même événement.
Ouais, parce que t'as la mémoire.
Chacun n'a pas la même vécu de la même manière.
Après, t'as des faux souvenirs qui viennent se greffer là-dessus et tout.
Exactement. Mais bon, ça n'empêchera pas que John va devoir nous trouver une transition maintenant.
Eh bien, la transition est toute faite.
Oh, mais quel roi de la transition.
Nous parlions de Poltergeist, de événements passés lointains.
Ouais.
Nous n'allons pas parler de la bête du Gévaudan, ni même de l'ours polaire retrouvé en fin fond de la Normandie avec une caisse de whisky. Nous allons parler d'un système. Attention, je mets le point bas. Un système d'outils pour Linux.
Oui.
Avec Google qui s'appelle Chrome OS.
Linux. Oh là là, purée, t'étais parti loin, j'étais parti sur l'autre sujet, moi. Oui, oui, alors, bon, tous ceux qui procèdent à un Chromebook savent que c'est à la base un noyau Linux. Et il faut savoir que, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a un vrai rapprochement entre Chrome OS et, alors non pas Linux, mais les applis Linux. Et quand on voit le dernier code source de l'OS de Google, ben, on se rend de plus en plus compte que ça va devenir de plus en plus simple d'installer des applications Linux via Chrome. Parce que tout simplement, bah, il y a beaucoup d'applications qui vont être tout simplement accessibles via la barre de recherche dans Chrome OS. Et pour l'installation, ça se fera de manière très très simple puisqu'il suffira de faire en gros comme un double clic et tu pourras installer l'appli. Donc, alors, il y a, ça passe. Alors, je ne connaissais pas. Est-ce que quelqu'un connaissait le Advanced Package Tool qui est disponible sur les distributions Debian?
Ouais, apt-get ou apt, oui, bien sûr.
Ouais, c'est ça. Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est ça parce que bon, ils disent Advanced. Oui, c'est apt. Donc, tu pourrais trouver beaucoup d'applications et ça permettrait de les lancer. Et en plus, ça permettrait de travailler sur un Touch Friendly Launcher. Donc adapté aux commandes tactiles. Donc, que demander de mieux? Bah, rien de plus. Au moins que un peu plus de liberté sur le Chrome OS, peut-être, parce que j'ai jamais eu de Chromebook, mais c'est une machine qui me branche de plus en plus.
Mmh. T'écoutes trop Blog Linux, toi?
Non, c'est même pas pour ça. C'est que il y a tellement de gens qui me saoulent avec les machines Windows autour de moi que je me dis que ça, bah, au moins, tu te casses pas la tête, tout est dans, pour monsieur, madame Michu, bah, en gros, qu'est-ce qu'ils ont besoin de plus?
Mais il y a des chances que petit à petit, ça y vienne, hein, parce que il y a de plus en plus de monde est quand même dépassé par le Windows qui plante ou qui se reboot ou qui fait des mises à jour ou qui est lourd, qui marche pas bien. En plus, bah, voilà, maintenant Windows vient d'abandonner Edge pour Chromium.
Ouais.
Pour le moteur de rendu pour le navigateur. Bah, petit à petit, peut-être que ça va virer, tout le monde va se mettre plus ou moins à Chrome OS. En plus, quand tu connais par ton téléphone le fonctionnement d'Android, tu connais le fonctionnement, enfin, tout l'écosystème Google, bah, voilà, hein, t'es presque dedans, quoi.
Alors, après, je suis pas pro Chrome OS. Je suis juste pro ce système de machine, quoi. Ultra simple, ça boot, point. Il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de gros hardware ou quoi. Et je pense que ça peut répondre à 90% des gens. Parce que, à part les hardcore gamers, ça peut fonctionner, quoi. Mmh. Après, ce que j'aime, moi, c'est le fait d'adosser ça à un compte Gmail.
Bah, là, tu donnes toutes tes données à Google, hein.
C'est ça le plus gros problème. Mais sur le principe, je trouve ça très bien. Le système de client léger base en ligne, très bien. C'est juste que ça appartient à Google, quoi. Mmh. Une alternative à ça, libre ou open source, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, au niveau mise à jour, ils en mettent beaucoup, hein, parce qu'ils sont déjà à la version 70, hein. Voilà. Donc, à part ça, rien de plus à ajouter. À moins que John avait un petit mot?
Non.
Alors moi j'ai une transition.
Ah vas-y.
Alors maintenant transition. Tu nous as mis du Linux dans Android. Enfin non, de l'installation d'application Linux sur un système Android. Maintenant comment tu vas faire pour mettre un système Linux à la place d'un Android?
Ouh, alors ça c'est moi qui continue.
Oui, c'est toi qui continue.
Est-ce que vous connaissez Post-Market OS?
Eh ben non.
Non.
Non. Alors, Post-Market OS a été créé par des hackers pour créer une distribution Linux qui boot sur un smartphone. Alors, ça boot sur pas mal de, pour l'instant, à peu près une centaine de modèles, hein, des Samsung Galaxy 3, des tablettes Tab 3, des modèles de chez Sony Xperia, et a priori, bon, les dernières nouvelles, ça sera à peu près 115 modèles différents. C'est un petit système qui boot sur un KDE, alors l'environnement bureau, c'est du KDE Plasma Mobile. Il y a une petite vidéo dans le lien que je vous fournis. Moi, ce que j'ai vu, c'est bon. Je suis pas super convaincu pour l'instant. C'est une bonne base. Ça me paraît un peu archaïque quand tu vois ne serait-ce que le système de bootage. Je crois que ça va faire rebondir certains. Hein. Tu vois plus de messages, ils vont dire OK. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Il y a des plateformes comme le LG Nexus 5 qui dispose même d'une implantation partielle de la gestion des appels et des données mobiles. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, tu peux pas passer d'appel, tu peux vraiment juste avoir un accès à un environnement bureau classique. Donc ça n'est pas encore la version ultime qui va te permettre de rebooter. C'est pas un Cyanogen Mode ou Cyanogen Mode. Plutôt celui que tu disais tout à l'heure,
Lineage OS.
Et mais bon, voilà quoi. C'est ça. Par contre, ça reste une vraie alternative libre. Après, quand tu regardes la vidéo, ça fait un peu peur. C'est pas ça qui va permettre à Monsieur même tout le monde de se connecter à un système OS basé sur Linux libre sur téléphone. Mmh. Mais c'est, la démarche est bonne et il faut les encourager.
Alors, on en avait parlé peut-être de Librem. Du Librem 5 qui va sortir avec un Linux dessus. On en avait pas parlé?
On a parlé de plusieurs téléphones libres. Après le
Librem, mais c'était prévu là pour je pense que c'est dans un mois là, c'est ça fait déjà plus d'un an que c'était prévu là, c'était un téléphone à 600€ qui allait booter sur du Linux. Alors je me demande s'ils sont basés là-dessus.
Librem, tu dis?
Librem, ouais, Librem 5. Si on en avait parlé, il me semble. Parce que je me demandais s'ils avaient travaillé avec ce système-là ou pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit la même chose.
Non, j'ai pas l'impression. Oui.
Parce que là, ça a l'air d'être quand même lancé depuis 2016, j'ai vu.
Ouais.
Mais bon, c'est encore en version alpha et les appels marchent pas. Donc bon, c'est non, intéressant, pour mais pour un téléphone.
Pas... Bah, à la base, c'est quand même un téléphone.
Un téléphone qui téléphone plus, quoi.
Ouais, voilà, quoi.
Non, t'as un Linux dessus. Bon. Ouais.
Ça s'appelle un bout de plastique.
Non, bah ouais, là, c'est une brique. C'est une brique. Bon, a priori, non, le Librem a été financé, Fabrice.
Ah ouais, bah oui, c'est lancé. Je vois des news assez régulièrement. Théoriquement, ça doit arriver bientôt, là. Hein.
Voilà. Si vous voulez faire plaisir à Fabrice.
Non, mais je crois qu'on en avait discuté. On trouvait quand même que 600€ pour un téléphone, c'était un peu cher.
C'est toujours le problème, hein. Mais bon. Bah, déjà, tu peux pas. C'est pas quelle est la limite psychologique que la moyenne des Français serait mettre pour un téléphone. Parce que quand tu vois des Wiko qui sortent à 95, 90€, 50€, j'ai même déjà vu, c'est des grosses cochonneries, hein, franchement. Mm. Voilà. Mais ça va répondre à un besoin. Ça va répondre à un besoin de quelqu'un qui a juste besoin de téléphoner.
Ouais, un budget, quoi, aussi.
Voilà, quand c'est un budget. Ouais. Mais, d'un autre côté, t'as le paradoxe avec les iPhone X.
Ouais, ou là tu mets un salaire. Là.
Tu mets un salaire.
Tout dépend à qui.
Oui, oui. Même un double salaire si tu travailles pas beaucoup.
Ouais. Non, mais c'est ça, quoi. C'est surtout ça ce qui m'embête, c'est que je pense que autant des grosses boîtes comme Samsung, LG, Huawei, ils savent très bien déployer une gamme de téléphones sur des marchés avec des prix cohérents. Je suis même sûr qu'un modèle qui est vendu en Inde, il sera pas le même prix qu'en Europe, parce qu'ils savent que même si c'est un bas de gamme en Inde, le bas de gamme en Inde, ils vont peut-être le vendre de 25 ou 30€, et en France, ils vont te le vendre 50.
Oui. Bah, c'était le cas, hein, à la sortie du Firefox, de Firefox OS, c'était ça, hein.
Ouais, ils voulaient vendre des téléphones à 15$. Là, c'est
mais en France, il est vendu à 80, alors qu'en Chine, non, en Inde, il est vendu effectivement à moins de 50 dollars.
Non, mais j'ai même entendu, je te dis, j'ai même entendu 15.
Ouais, ouais.
Voilà, bon, après, ce que je pense aussi, c'est que les gens, ils vont passer soit du feature phone, comme on parlait avec le système d'exploitation, je parlais il y a quelques mois, là, qui remplaçait bah, Firefox OS, dont j'ai oublié le nom. Et même tu avais dit ouais c'est un peu l'usine à gaz parce que bon c'est pas tactile et tout et tu voyais pas trop l'intérêt de ça, que je partage aussi ton opinion.
Parce que pour 20 euros de plus t'as un smartphone quoi.
Bon, c'est pas... 20 euros pour un Européen, c'est pas 20 euros pour un Africain, un Indien ou un Asiatique. Tu vois, c'est ça. Et je suis pas sûr que un système d'exploitation alternatif à Android dans les pays développés ça marchera. Parce que il y a une limite psychologique du prix. 600 euros pour un système d'exploitation que tu connais pas, tu vas pas les mettre. Pour un smartphone que tu sens pas mal, tu vas peut-être les mettre. Mais il sera un Android ou un iPhone reconditionné. Pas ailleurs. Pas ailleurs, tu vas pas mettre ce prix-là. Maintenant, je suis un peu dubitatif. Quoi.
Sauf si t'es puriste, hein, si tu veux vraiment un truc libre.
Ouais, mais des puristes, Fabrice, il y en a combien?
Bah, ça a quand même réussi à être financé, donc c'est qu'il y en a quelques-uns qui
ouais, y croient. Financé pour combien de téléphones? C'est pareil, ils demandaient 1,5 million. Ils vont vendre combien? 2500, 3000? Ça va pas changer le marché des smartphones.
Non, mais après, si ça marche, s'ils arrivent à faire des téléphones peut-être un peu moins chers, parce qu'ils arrivent à avoir une économie d'échelle, peut-être ça peut prendre, parce que moi je serais le premier à en prendre. Si pour 200 euros,
voilà. Okay, moi, c'est ce que je voulais t'entendre, Fabrice. Combien tu mettrais? Toi, tu dirais, voilà. Moi, Fabrice, je veux un téléphone.
Bah, pour l'instant, libre. je suis plutôt à 100 euros. Ma limite, pour l'instant, c'est plus 100 euros. Voilà. Mais pour avoir un truc qui fait tourner du Linux dessus et je suis sûr d'être 100% libre, ok, 200 euros, je les mets.
Tu les mets. Mais t'as peut-être bien dit 100 euros au début.
Ouais. Parce que je sais que je serais pas totalement libre. Ou alors, tu vois, j'avais acheté un truc, déjà, c'était mon premier Firefox OS, c'était mon premier smartphone. Bon bah j'avais pas envie de mettre énormément dessus, je savais pas si ça allait marcher et effectivement ça s'est cassé la gueule après, donc ceux qui ont mis un peu plus ça valait pas forcément le coup quoi, parce qu'après si l'OS dessus il est abandonné, qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux toujours repasser sur un autre système parfois, mais tu vois par exemple même le Fairphone, tu peux mettre un peu tout ce que tu veux dessus, mais bon, tu payes quand même plus de 400 euros, t'as 6 mois d'attente, il faut vraiment être convaincu, quoi.
Voilà. C'est plus un marché de conviction qu'un marché, comment je pourrais trouver le terme, de masse.
Ah ouais, c'est sûr. Tu mais vois, bon, il faut bien créer l'alternative à un moment.
Est-ce que c'est pas ce qu'on appellerait un marché de niche?
Si.
Ah oui.
Alors, ce qu'il y a, c'est que Firefox OS, ils avaient.
Ah oui, t'as trouvé le bon terme, John. C'est un marché de niche. Hein.
Pour Firefox OS, ils avaient attaqué par en dessous, en essayant d'aller voir sur les pays émergents pour faire des trucs pas chers, mais c'était l'excès inverse. Il y en a qui font trop cher, il y en a qui font trop cheap. Parce que franchement, c'était un bon système sur un téléphone qui avait un petit peu de pêche. Je pense que c'était nickel, quoi.
Mais... Ouais. Mais pour oui, mais ils sont partis sur des marchés où les gens ils avaient pas de smartphone.
Mais bon, du coup, il n'y avait pas non plus, tu peux pas faire d'argent avec. Donc, le problème, c'est que maintenant, l'OS, c'est pas l'OS qui sert à rentabiliser le truc, quoi. Et comme le marché, il est détenu par les constructeurs, c'est pas évident.
Bah ouais.
Parce que même Microsoft a lâché l'affaire, donc.
Pour dire, parce que dans le genre spécialiste des gros bides, hyper sévère avec la Xbox, hein. Voilà, donc oui, c'est assez surprenant. Je pense qu'on en revient toujours au même problème, c'est que actuellement
pourtant,
il y a deux acteurs.
Et pourtant, ils avaient une assez bonne réputation, hein, même chez les Liboys convaincus qui ont horreur de Windows, c'était quand même un système qui semblait assez pratique à utiliser comparé à Windows.
Mais les Windows Phone à la base, ils étaient pas. Non, mais moi, ça, honnêtement, j'ai déjà vu des Windows Phone, c'était pas si mauvais que ça. Hein. L'interface, tout ça, c'était pas mauvais. Après, le problème, c'est que ils sont arrivés trop tard. Ils sont pas arrivés avec un truc révolutionnaire. Et ils sont arrivés sur un marché où, en gros, il y a ceux qui veulent mettre de l'argent dans un téléphone et ils veulent faire bling bling, donc c'est un iPhone. Il y a une deuxième partie qui vont aller mettre moins cher pour quelque chose à peu près pareil. C'est tous ceux qui vont aller acheter des Huawei P20, des Galaxy S9 et toute la clique. Je dirais ça, en gros, c'est 20, alors, les iPhones, c'est 20-30%. Ceux que je parle juste après, c'est 15-20%. Et il y a ceux, il y a tout le reste. Donc, 70% du marché. Va leur parler de Firefox OS, va leur parler de Lineage OS. Ils savent même pas ce que c'est.
Ouais, eux, ils savent même pas ce qu'ils
tournent. Android. Après, ouais. Ils en ont strictement rien à faire. Que ce soit le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, ils savent même pas ce que c'est. Bah, eux, ils connaissent Android parce que ils savent que, bah, il y a tout le monde a un Android. Donc, ils vont faire comme tout le monde. Et c'est devenu,
oui, et puis, t'en as à tous les prix, quoi. Tu t'en as entre 100 et 600 euros, selon
t'as même ton portefeuille. Moins que ça, t'as les 50 euros. Tu vas à Electro-Dépôt, c'est 50 euros. Un Android, t'as des Wiko. Alors, je te dis pas, va lancer YouTube et faire une photo, t'en as pour 2h30, mais. Voilà, t'as 50 euros le téléphone, quoi. Mais voilà. Après, Wiko, c'est de la cochonnerie, hein. Mais bon, bref. Ça, je n'épiloguerai pas là-dessus. Voilà. Au niveau téléphone, je pense qu'il y a beaucoup mieux et pour moins cher.
Pour moins cher, je sais pas, mais.
Coucou, Cédric.
Cédric, pourquoi tu dis coucou, Cédric?
Je crois qu'il était copain avec. Ouais, je crois qu'il avait eu.
Une bonne expérience. Pas Wiko.
Ouais, mais parce qu'il a essayé, je pense.
Ouais, il a essayé. Ma femme a essayé, hein. Moi, j'ai essayé, hein. Ma femme, elle a son deuxième Wiko, hein.
Ouais, mon gamin, quand il voulait acheter un Wiko, je lui ai dit, non, c'est...
Non.
Après, il m'avait proposé Acer, non, pas Acer, attends, c'est quoi? Arcos. Je lui ai dit Arcos, bof, et puis j'ai mon beau-frère qui lui a dit, tu sais, j'ai acheté un Arcos. Moi, je suis allé sur Xiaomi, je
sais pas. Ouais.
Selon... Et,
Xiaomi. Bah,
c'est pas trop mal. Bon, moi, je suis pas déçu.
Bah, Xiaomi, pour le prix. Tout le monde dit que c'est l'Apple chinois, hein. Et parce que leur bas de gamme, PC, c'est des MacBook, hein.
J'ai pris le tout en bas, hein, parce qu'après ils font presque du haut de gamme qui ressemble quasiment à.
C'est pas Honor aussi, ou c'est Huawei?
Non, c'est Huawei Honor.
C'est Huawei. Huawei. Ouais. Mais bon, c'est assez comparable à Huawei, je dirais, au niveau, parce que mon fils, il me comparait, il me disait, oh, regarde, il y a le Huawei machin. Je disais, bah, il fait à peu près la même chose que le mien, il est juste un peu plus cher, mais sinon, c'est pareil.
Donc, c'est toi qui as le.
Mais bon, après, bon, c'est du chinois.
Ah oui.
Il y a un système chinois derrière. Si tu veux, au lieu de donner tes données à Google, bon, tu les donnes à Google et aux Chinois en même temps. Parce qu'ils ont leur.
Je pense que même si tu sais, Fabrice, je pense que même si tu désactives toutes les données chez Google, les Chinois, ils les récupèrent.
Ouais, après, ils ont leur cloud et tout ça. Enfin, tu peux tout leur donner si t'as envie. Bon, après.
C'est pas eux aussi qui ont leur propre Play Store?
Non, j'ai pas l'impression.
Ah non, c'est Huawei alors qu'il y a. Parce que j'ai entendu qu'il y en avait un des constructeurs chinois où il se faisait énormément d'argent avec son Play Store à lui.
Non, je connais pas.
Ah, ça doit être Huawei.
Ouais.
C'est Huawei, ils ont créé.
Pour les thèmes.
Ouais, c'est pour ça qu'ils vendent des téléphones pas chers, parce qu'en gros, Huawei, ils veulent des grosses parts de marché en Europe et ensuite installer d'office leur Play Store à eux. Parce que là, ils vont se faire un max d'argent avec, hein. Et c'est pour ça qu'ils pourront, en gros, ils veulent beaucoup de Huawei en Europe pour ensuite proposer leur Play Store, parce que c'est avec ça qu'ils ont des... Non, c'est Xiaomi, John, parce qu'il y a même pourtant... Mi Music et tout, un truc comme ça.
Ouais, il y a ça, mais il n'y a pas de Play Store. Hein.
Ils ont leurs outils
comparables à ceux de Google, mais il n'y a pas de Play Store. Enfin, moi, sur le mien, il n'y avait pas de Play Store... Par contre, effectivement, ils ont un cloud et tout. Tu peux synchroniser ton téléphone chez eux.
Oh, je suis sûr que tu l'as fait, Fabrice.
Bien sûr.
Ah oui, je vois.
Tout de suite, immédiatement.
C'est la première chose que t'as fait.
Exactement.
T'as synchronisé ton agenda et tout avec eux.
Exactement.
Ah bah oui, attends. Hein.
Les contacts.
On fait tellement confiance aux Chinois. Ah ouais, non, mais c'est pour ça. Ouais, je pense. Non, mais c'est Xiaomi. Non, ouais, oui, de toute façon, ils font de l'argent avec les opérateurs de télécom français, donc, ouais.
Mais, il y a les thèmes.
Et
moi, c'est ce que j'ai un Huawei et t'as les thèmes qui sont payants.
Ah ouais?
Bon, après, ouais, les thèmes pour,
ils font d'écran?
L'habillage. Oui.
Tu vas payer pour ça?
Ouais.
Bah, tu sais, les gens, ils sont cons parce qu'ils veulent acheter un téléphone à moins de 80 euros et puis après, ils vont aller balancer des 5 euros dans des thèmes et des conneries ou des sonneries et des machins.
Ouais. Oh,
D'ailleurs, si vous voulez des bonnes sonneries, vous avez l'application Zedge. Vous pouvez installer des sonneries, des thèmes, des fonds d'écran.
Ouais. Moi, je vais mettre le générique de l'apéro pareil. Des papas manchots en sonnerie de téléphone.
Elle est libre. Ah,
c'est possible aussi.
Elle est libre. Elle est libre. Elle est libre. D'ailleurs, ouais. On voudrait remercier le créateur de cette musique.
D'ailleurs, Cédric, avec Cédric, on a retrouvé la musique du thème qu'on cherchait pour mon podcast. Et je suis retombé dessus. Donc, je l'ai envoyé à Cédric. Donc, peut-être qu'il va nous faire un...
Bah, c'est un auteur belge.
Il m'avait envoyé des messages.
Oui. C'est un auteur belge. Ouais. Alors, je ne sais plus d'ailleurs, son nom et je regrette.
Tu fais dans le local, en plus.
Si vous voulez de la musique libre de droit incorporée dans vos projets,
attention.
Le site incompetech.com. incompetech.com.
Merci, Patrick.
Et vous avez même des boulettes, des papiers pour des patrons pour les boulettes journal, les calendriers et plein d'autres de contenus libres de droit.
Super.
Donc merci
Kevin MacLeod. Et obligé de Kevin MacLeod.
Ah mais il fait plein de musique sympa. Moi j'avais utilisé aussi pour mon podcast de voyage là. Je l'avais trouvé chez lui aussi.
Oh, Fabrice, tu m'en veux si j'ai toujours pas écouté.
Non, mais c'est du temporel. Bon, là, c'est plus 20 ans après, ça va être 21 ans après, mais c'est pas grave.
Le jour où je ferai un IRL avec toi, tu vas me donner un coup de pied au cul.
Ouais, t'as bien... En plus, c'est pas c'est pas très très long, hein. Je sais plus, il y a une trentaine d'épisodes de 5 minutes. Franchement, tu fais ça dans la journée. Hein.
Ah oui, avec toute la route que je fais, ouais. Ouais. Je vais le télécharger, site. Je vais me faire l'intégrale prochainement.
Le site s'appelle musicscreen.be.
Oui, pour le générique.
Pour le générique, et c'est M.
Mohamed non. Quelque chose.
Si. Et Bruit, vas-y. Elle s'appelle.
Bruit, tout à fait. Et l'auteur, c'est Mohamed, je ne sais plus qui.
Hicham. Quel beau blanc.
Comment ?
C'est Hicham Shaidi.
Hicham Shaidi, voilà. Merci à Hicham Shaidi. Et maintenant, John. Transition.
Il n'était pas prêt.
Il n'était pas prêt. On l'a bloqué dans son élan. Il cherchait Hicham Shaidi. Ça y est, c'est fini.
Et bon. Eh ben, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà.
Toi, j'ai failli casser mon verre.
Eh ben, on est passé à l'heure
des
recommandations.
Non, mais t'as encore des choses à nous dire,
Déco. Ah, John.
Déco, t'as encore des choses à nous dire.
Bah oui.
Bah non.
Non, ça c'est fait. C'est fait. Non, non, il faut
tout en haut. C'est fait.
Tout en haut, là. Il a fait ses vacances avec son père et tout. Et puis avec sa nouvelle copine.
Mon père, il a une nouvelle copine. T'as oublié ça?
3 semaines. Ah oui!
Ah! Oh, putain! Ah, bah tu vois, regarde. Tu vois.
Attends, je refais la transition. Non, mais c'est parce que t'as mis comparaison Pierre Goudal.
Comment?
Ah oui! Premier retour sur le montage des robots. Ah oui.
Oui, il y avait ça, voilà, et il y avait autre chose. Alors, est-ce que tu veux faire quoi? Que je parle du robot?
Attends, je veux te faire la transition.
Il a bugué. Il a bugué.
Le WOM fait son effet. Et donc, après avoir parlé de musique et de téléphone, nous allons parler de quelque chose qui envoie de la musique.
Ouais.
Et donc, Deka va nous parler de.
De son papa.
De son papa et de une jeune femme.
Oui.
Robotique.
Qui s'appelle Alexa.
Qui s'appelle Alexa.
Voilà.
Ok, Google, achète Alexa.
Bon, de toute façon, elle est pas là, donc t'inquiète pas, elle va pas s'enclencher. Alors.
Non, mais pour nos éditeurs, oui.
Ah, peut-être. Alexa, quel est le sens de la vie?
Alors. 42 mètres.
Ouais, alors, elle répond 42 ou autre chose. Et oui, donc mon père a été un des chanceux qui a réussi à avoir un Amazon Echo pendant les fêtes de Noël, parce que en avoir un, ça a été un petit peu compliqué. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça rappelle un peu l'épisode de John qui a cherché une Switch pour l'anniversaire de sa fille il y a 2 ans.
Bah attends, ils étaient toutes soldées, ils les donnaient pas avec ton paquet cadeau.
L'Amazon Echo?
Ouais. Ah, un moment où ils faisaient des soldes à tout va.
Ah non, il n'y avait plus, hein.
Ah bon?
T'allais dans les boulangers et tout. Ah non, 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 non. Des Google Home, oui.
Ah oui, parce qu'à un moment, je sais pas, on en entendait de partout, il y avait des offres super pas chères.
Non, mais il y a toujours, non, mais des offres, oui, mais des dispos, non. Il y avait une grosse nuance, parce que les Google Home, oui. Et en fait, bref, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais ma mère a réussi à récupérer le dernier exemplaire d'un Amazon Echo Plus, donc l'intermédiaire, non pas le petit en forme de cendrier, je dirais, plutôt l'espèce de cylindre, et qui est intermédiaire avec celui qui est avec l'écran et en forme de boule. Donc, mon père a eu ça comme cadeau de Noël. Alors, qui c'est qui a dû s'occuper du paramétrage et de l'installation de ce truc-là? C'est Deka. Donc.
Il paraît que ça, il n'y a rien à faire.
Eh ben, par contre, je suis d'accord avec toi, c'est assez facile. Hormis que sa Livebox avait du mal à récupérer la synchro avec le truc, avec l'appli, ce que je trouve plutôt pas mal fait, c'est que tu télécharges une appli, tu dis, OK, je veux que la Alexa, l'Amazon Echo, se connecte via cette Livebox là, tu le fais une fois, c'est terminé. Ça, très bien, en 25 minutes, c'est paramétré, terminé, merci, au revoir. Par contre, à l'utilisation, au bout de 3 semaines, lui en est content, moi je l'ai testé à plusieurs reprises, et j'ai pas encore compris l'utilité de ce truc-là. Je m'explique. Lui demander de lancer des stations de radio, pas de problème. Lui demander de lancer certaines musiques. Je dis pas toutes les musiques, certaines musiques, elle va te les trouver. Parce que, même comme j'ai un compte Amazon Prime,
d'accord.
Elle va mais pas le compte payant à 3,99 pour le Amazon Music, j'ai le compte Amazon Prime de base. Donc elle va te trouver certaines playlists, hein. Du Big Flo et Oli, mais par exemple, tu vas lui dire, lance-moi telle chanson de Big Flo et Oli, elle va te dire non, je lance une playlist. Non, mais c'est parce que j'ai pas le, donc, à la limite,
c'est moi qui décide.
Ouais, en gros, c'est moi qui, non. En gros, paye tes 3,99, je te mettrai ce que tu veux. Tu vois. Mais par contre, au niveau reconnaissance vocale, il y a certains bugs. Alors, quand tu vois sur le côté, il est marqué, paramétré avec Wii SNCF, les services de Wii SNCF, MAPI, etc., etc. Alors, tiens, donc j'y suis, Alexa. Quel est l'horaire du prochain train entre Lille et Paris? Désolé, je ne comprends pas la question. Déjà, tu te dis, ok. Par contre, une requête Wikipédia assez facile, genre, qui est Jean Jaurès? Elle va te répondre. Et, c'est ça. Alors, par contre, la fonction qui est numéro 1, Alexa, quel est le prix de tel produit? Le produit vendu sur Amazon est tel prix. Ça, elle va te le trouver. Donc, après, on avait l'idée, bah plutôt lui, Papa Deka avait l'idée de lancer ça dans de la domotique. Je me dis pourquoi pas, et on va lancer dans le projet des ampoules Philips Hue, les Philips Hue. Je sais pas si vous connaissez les ampoules le Philips Hue.
Ouais, de nom.
De nom. En gros, c'est les ampoules les plus faciles au niveau paramétrage et interopérabilité avec les Google Home et tout ça. Donc je pense que ça va être la prochaine idée, c'est d'installer une ampoule comme ça pour voir si ça fonctionne ou pas. Et de lui dire, en gros, bah, Alexa, allume ou éteint telle ampoule, ou allume-le à telle ampoule de telle heure à telle heure. Parce que, des fonctions assez basiques, elle sait les faire. Mais, quand on te dit dès d'office qu'elle est capable d'interfacer avec telle ou telle application, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense que dans quelques années, on aura tous un. D'ici moins de 20 ans, on aura tous un truc comme ça chez soi parce que ça sera très pratique. Mais proposer que ça révolutionne déjà le marché dès maintenant, non.
Tu vas pas te faire des copains, là, Deka.
Ah bah non, mais bon, je m'en moque, hein. Je suis libre de donner mon impression. Moi, j'interviens anonymement. Personne ne connaît mon visage. Voilà. Donc, je dis ce que je pense et j'ai pas de compte à rendre. Pourtant, je travaille pour des opérateurs de télécom. Donc, voilà, c'est pas mon idée de dire, voilà, c'est bien ou c'est pas bien. Pour l'instant, j'aime pas. Et je dis pas que ça servira un jour, mais ça, pour l'instant, j'ai du mal. C'est plus un gadget que utile.
Ouais, enfin, moi, je trouve que le côté intéressant, c'est de faire une recherche internet sans avoir à taper.
Ah oui!
Globalement, c'est dis-moi quelle est la date de ceci, fais-moi une recherche là-dessus, et te le dit, t'as pas besoin de taper, c'est encore plus pratique que le smartphone. Après, T'as un espion chez toi, quoi.
Alors.
Donc là-dessus, je suis quand même assez réservé. Et je pensais que ça prendrait, parce que quand même, malgré tout, c'est pas cher. Ils sont tous lancés là-dedans. Même maintenant, avec la Freebox, ils vont te lancer ça aussi.
Mm-hmm.
J'ai pas l'impression que finalement, d'après ce que j'ai entendu, ça prend pas tant que ça. Ça reste quand même assez... Alors, moi, j'aurais été intéressé de savoir pourquoi ton père, il voulait ça. Comment il en avait entendu parler, pourquoi il voulait ça, pour quelle utilité.
Moi, j'en avais parlé une première fois. J'avais dit, ça pourrait... Parce qu'en fait, bon... Il a une tablette, il a un PC, il a des enceintes connectées, il avait une enceinte, il a des enceintes Bluetooth, tout ça, mais il s'en sert pas. Mais je lui ai dit, je dis ouais, mais des fois tu cherches un truc sur Internet, t'as pas forcément besoin d'allumer l'ordinateur pour ça. Alors je lui ai dit pourquoi pas. Et en fait il a rencontré un ami entre deux qui lui en a parlé et lui par contre c'est plus basé domotique. Alors il lui a dit quand il dit Alexa allume-moi telle ampoule. Alexa, je crois qu'il y a même son thermostat qui a interfacé, il dit Alexa, programme-moi le thermostat et tout ça. Et comme lui, il est assez branché travaux en ce moment, il est en train d'installer une nouvelle chaudière, etc., à poêle à peler, etc., et il se dit peut-être que ça va l'intéresser. Puis il est plus tout jeune. Parce que moi, je suis pas tout jeune non plus. Donc, lui, il est plus tout jeune. Donc, il s'est peut-être dit ça, mais. Quand tu l'utilises au quotidien, Alexa, joue-moi RTL, joue-moi Virgin Radio, joue-moi, pas de problème. Mais des questions compliquées, elle ne comprend pas. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai déjà demandé qui est le maire de telle commune. Je ne comprends pas. Tu vois, il y a des limites. Alors, a priori, ils font régulièrement des mises à jour et tout ça. Mais bon, pour l'instant, au bout de 3 semaines, ça n'a pas réinventé la roue, hein. Je pense que celui qui utilise l'assistant vocal de Google, par exemple, ça va pas lui changer sa vie. C'est pas Alexa qui va la convaincre que c'est mieux Alexa que OK Google. Après, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fond. Pour revenir à ce que tu disais, l'histoire d'espion. Alors, je te parle de la version officielle du truc. C'est que, et même l'April a fait des tests. A priori, ça n'enregistre que la question après le Alexa. Parce qu'il y a une petite puce qui sait reconnaître le Alexa avant. Et tout ce qui la question part dans le cloud pour l'interpréter. Logiquement, c'est pas un espion pour te dire voilà. C'est juste une détection pour entendre le fameux Alexa et ensuite interpréter la question.
Mais donc, à chaque fois quand même que tu fais une requête,
c'est enregistré. Par contre, la requête part dans des serveurs qui sont associés je ne sais où.
Donc, ils savent quand même tous tes centres d'intérêt, voilà quoi, t'as posé une question là-dessus, tiens, on pourrait te proposer une pub là-dessus.
Fabrice,
c'est quand même pour ça.
Qu'est-ce que je t'ai dit il y a quelques minutes? Ouais, je vais demander un truc. Attends, je me suis relancé dans la collection de jeux vidéo. Je vais demander un jeu, mais quasi introuvable sur la Wii. J'ai dit, Alexa, quel est le prix de tel jeu en occasion sur la Wii? Elle me l'a trouvé, hein. Sur Amazon, je vais pas demander le prix, je vais pas demander d'où ça venait, hein. Je lui ai dit, quel est le prix de? Et voilà, le prix du tel jeu est de X euros sur le Amazon. Voulez-vous le commander? Tu vois, okay. C'est ça. Je pense que chez Amazon, la première truc, c'est de vendre ça. Google, j'aurais un peu plus de doutes sur leur truc. Après, ceux qui ont un peu plus d'argent, oui, le HomePod de chez Apple, je pense qu'ils ont pas besoin de stocker les données pour se faire de l'argent. C'est juste le fait que ce soit marqué Apple et que tu vas le payer 350 € au lieu de 65. Voilà. Mais globalement, je suis très mitigé sur l'intérêt de ça pour l'instant. Maintenant, sur la durée, en domotique, à voir comment ça fonctionne et comment interfacer l'ampoule et l'ampoule ou un autre objet avec le Alexa. Parce que même plusieurs Alexa, ce qui paraît comme dans la pub, là, Alexa joue le deuxième le morceau dans la chambre de Ryan, ce qui paraît, c'est la fête du slip, hein, pour le faire. Parce que je sais pas si vous avez entendu vous avez vu la pub d'Alexa qui pouvait lancer une musique d'un écho à l'autre dans une autre pièce, ce qui paraît, c'est fête du slip pour le faire. Hein. Donc pourquoi pas, mais bon, pour l'instant, je suis pas convaincu, je reviendrai dans quelques semaines à ce sujet. Si pas de colle, a pas des branches entre deux. Hein.
Pour revenir dans le livre, il y a quand même un projet dont Sandrine elle parle dans Blog Linux
Jarvis.
Qui s'appelle Mycroft, qui peut être mis sur un Raspberry Pi.
Ouais.
Et c'est un assistant connecté, mais open source. Et qui
local.
Du coup. Ouais.
Pourquoi ?
Et il y avait Jarvis aussi.
Je pense qu'il y en a eu plusieurs.
On a plus de nouvelles de celui qui était. C'était un Français qui était vachement en droit de penser là-dessus.
J'ai oublié, je m'en suis rappelé parce que je m'en rappelais avec avoir vu une vidéo où il le faisait chez lui avec ses ampoules connectées, etc.
Oui.
Je sais plus.
Ah ouais, mais on n'a plus une nouvelle. Il est parti aux États-Unis et après on n'a plus une nouvelle de son projet.
Je crois qu'il y en avait un autre français aussi, mais je me souviens plus du nom. C'était un nom de femme aussi, comme tous les noms de. Je sais plus c'était quoi. Il y en a plein, hein, des projets de. Mais c'était plus axé domotique.
Clara.
Non. Tu peux toujours tout essayer en on.
Et par contre, sur le Alexa, tu peux pas changer son nom.
Mais apparemment, ça serait le plus simple à dire par rapport à et Pepper et Google ou je sais plus. Ou...
En fait, c'est parce que l'avantage de Alexa, c'est pas un prénom qui est connu. Alors, a priori, Alexa, ça vient de la bibliothèque d'Alexandrie.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Alexa.
Ok Google, achète-moi le dernier album de Claude François.
Voilà. Bon, en tout cas, ça n'a pas pour l'instant. J'en reviendrai dans quelques semaines. On ne sait jamais quand Alexa m'aura peut-être convaincu de loin.
Allez, et donc, dès qu'après nous avoir parlé d'être convaincu ou non par Alexa et par la domotique. Tu vas maintenant nous parler d'être convaincu ou non par la pratique de la robotique.
Alors là, c'est autre chose. Là, je vais être mitigé. Je vais être mitigé parce que je suis parti très motivé par le robot, hein, le fameux kit que vous aviez trouvé sur Amazon. Et quand tu déballes, c'est super bien présenté, il y a un petit plan, vachement bien, avec le nombre de pièces, etc. Mais à la pratique, le CD avec le PDF qu'ils te fournissent pour l'installation, je sais pas comment ils l'ont fait, mais je pense qu'ils l'ont
avec
fait
les pieds.
Avec les pieds. Mais vraiment, hein, c'est le cas de le dire, John, hein, c'est fait avec les pieds. Là, on a monté, ça se monte d'abord par les deux planches avec les deux circuits imprimés. Donc, on a monté les deux planches, les quatre moteurs. On a monté le deuxième moteur avec les capteurs de mouvement et la planche. Mais j'ose pas le fixer sur la planche parce que l'empattement. Quand tu regardes le plan déjà, la photo et je sais pas comment ils ont dit, c'est le meilleur angle pour interpréter le truc, mais tu regardes trois fois, tu dis, ok, est-ce que j'ai bien mis les têtes pour brancher mes fils dans le bon sens? Mais tu t'y reprends quatre fois, tu comprends pas. Et quand tu rebranches sur la deuxième planche, t'as des petites têtes du circuit imprimé, des petits pics du circuit imprimé qui sont contre la planche de bois en mélaminé. T'oses pas le visser, t'as peur de péter les petits pics. Et pourtant, tu regardes quatre fois, t'as l'impression que t'es sur le bon empattement. Tes vis, elles rentrent, tes vis, ils disent, c'est telle référence de vis parce que t'as des petits sachets. Alors là, pareil, point positif, t'as des petits sachets avec des petites vis qui sont bien indiquées, tel type de vis, tel nombre de vis, donc tu peux pas trop te perdre, tel nombre d'écrous. Et quand tu pones les bonnes vis avec le bon écrou, t'as l'impression que tu vas visser avec tes pics incrustés dans la planche de mélaminé. Donc, tu oses pas le faire. Et les mains, t'oses pas le faire. Et ça, c'est un peu rebutant parce que moi, ma gamine, elle est un petit peu coincée là-dessus, quoi. J'ai dit, mais vas-y, on verra bien. Et même moi, au début, je suis d'accord avec elle. J'ai eu un petit peu de mal à me dire, vas-y, quoi, lance-toi dans le truc. Bon, après, c'est le plus gros problème, c'est reste ce plan qui est vraiment, les photos, elles ont été tirées avec les pieds, quoi. Peut-être que j'ai pas la logique du petit chinois qui a été faire les plans là-bas au fin fond de la ville, là, comment il s'appelle, là, où il y a tous les téléphones qui sont fabriqués et tout là, mais merci quoi. Réfléchis un petit peu à l'européen qui pense pas comme toi, mon petit bonhomme, hein, parce que là, franchement, je comprends pas tout ce que tu veux, et c'est un petit peu dommage parce que c'est super bien présenté au niveau de la du kit et tout ça, mais je me mets à la place d'un gamin qui veut faire ça tout seul, c'est pas possible. Et c'est un petit peu dommage. Bon, après, dans quelques semaines, je vais peut-être le finir, hein, le robot, et il fonctionnera peut-être, mais pour l'instant, on est loin de le faire fonctionner. Hein. Tandis que et Fabrice nous met des notes de l'émission, nous rajoute des notes dans l'émission.
Tout le monde dort, ça y est. On est prêt à aller au lit. On est prêt à aller au lit. C'est calme, hein, franchement. Vous trouvez
c'est
pas?
C'est calme à trois, hein.
Sans Morgane. Puis là, on est zen, on est début d'année, on est tranquille.
Ah ouais, ouais.
On a bu notre bière.
Je crois que c'est la bière qui vous a fait du mal.
On n'a pas de questions philosophiques.
Bon, on n'a pas de questions. On n'a pas de questions bizarres on sur la masturbation ou autre. Hein, d'habitude,
ça va manquer à nos auditeurs.
Hein. Ah ouais, je pense que c'était pour ça qu'ils nous écoutaient en numéro 1. Numéro 1 sur les questions tordues.
John, il va falloir nous faire un petit peu de quelques blagues un peu scabreuses.
Bah ouais, John.
Ah, alors.
T'as ça dans
c'est
ton.
C'est deux caca.
Ouais.
Et rencontre une diarrhée.
Ouais.
Il dit, la diarrhée lui dit, vous allez où? À la guerre. Et la diarrhée lui dit, je peux venir avec vous? Non, la guerre c'est pour les durs.
je crois qu'on a notre conclusion là.
Dans le titre de l'émission.
La guerre, c'est pas les durs. Ouais, je crois que c'est parfait.
C'est bon, on l'a trouvé. On est parti pour faire un épisode court quand même. Hein.
Ouais, ouais, mais bon, c'est bien, je pense qu'on va tenir le. Ouais,
on,
ouais,
va tenir, on va tenir.
Bien,
tiens, si vous voulez, je peux vous faire une petite reco.
Vas-y, vas-y.
Ah, parce que je suis allé au cinéma. Je suis allé voir bien le dernier film de Robert Zemeckis. Alors, est-ce que vous connaissez Robert Zemeckis? Si vous me dites que vous le connaissez pas, vous avez
retour vers le futur. Retour vers le futur.
Voilà, entre autres, hein, Forrest Gump, entre autres. Hein. Et il a sorti Le Monde de Marwen. Et je suis allé le voir.
Est-ce que c'est à côté de Narnia?
Ah non, non, pas du tout, ça se passe en Belgique.
Ouais, bah c'est ça, c'est Le Monde de Narnia.
Ouais. T'es vraiment que axé Belgique, non?
Non, non, mais en fait, c'est lui hein, qui est... Non, bah après...
Non, mais tout ce qui est belge, ça t'intéresse.
Le film, il se passe aux États-Unis, mais Marwen, c'est un village en Belgique.
D'accord.
C'est-à-dire que l'histoire d'avenir Marwen, c'est l'histoire d'un histoire basée sur une histoire vraie. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de fantaisie, mais c'est pas gênant dans le film en tant que tel. C'est que donc l'acteur qui est interprété par Steve Carell joue un photographe qui était agressé par une bande de néo-nazis et il a perdu la mémoire et notamment ses compétences qu'il avait précédemment avant son accident. Il était un illustrateur très inspiré par la Deuxième Guerre mondiale. Et pour essayer sa thérapie, il a décidé de créer un monde à lui où il se sent sécurisé. Et c'est le village de Marwen. Alors pourquoi ça se passe en Belgique, on ne le sait pas. Très honnêtement, on ne le sait pas, mais Marwen, c'est en Belgique.
Ah, c'est Bienvenue à Marwen. C'est
Bienvenue
pas le
à Marwen.
C'est ouais, pas c'est le
Bienvenue
monde
à
de...
Marwen, pardon.
D'accord.
Bienvenue à Marwen. Donc, ça se passe dans, il a créé ce village de Marwen qui est... Voilà, je ne dirais pas le pourquoi il y a le nom de Marwen. Ça, c'est un village qu'il a situé en Belgique et ce village, il est protégé par des poupées. Et chaque poupée, il y a lui qui est boss, et il y a des poupées plus Barbie qui sont toutes différentes. Il y a une bleue, brune, une rousse, une blonde, une black, une avec un accent russe, une un petit peu plus costaud. Et au fur et à mesure du film, on découvre que chacune des poupées, c'est une personne qu'il connaît. Et là, je vais pas spoiler, mais il y a une autre poupée qu'on ne voit pas dans la bande-annonce, qu'on ne voit nulle part dans le film. Et vous allez vite comprendre que c'est ce personnage principal que l'acteur combat. Parce qu'il, tout au long du film, il y a une vraie, ambiguïté entre ces photos qu'il prend, parce qu'en fait, comme il peut plus illustrer ce qu'il a dans sa tête, il fait des photos avec ses poupées, d'essayer de représenter les situations qu'il imagine. Et d'ailleurs, ça marche bien, il fait des expositions avec ses photos de poupées dans des situations. Mais entre deux, bah, il y a cette poupée-là qui existe vraiment et qui intervient. On ne sait jamais si c'est entre le réel et l'irréel. Et justement, tout le long du film, on intervient entre ce monde de poupées et ce monde réel. Et à tel point que on ne sait jamais ce qui se passe dans le monde des poupées si c'est pas dans le monde réel. Et ce qui se passe dans le monde réel, c'est pas dans le monde des poupées. Et c'est vraiment très bien fait là-dessus. Parce que je veux pas spoiler le scénario, parce qu'en gros, le scénario, il tient sur 2 pages et demie. Hein. Vraiment. Tant qu'on ne sait pas qui est ce personnage-là. Et toute l'idée de ce film, c'est jouer l'ambiguïté et de deviner qui est ce personnage qu'on ne voit pas dans la bande-annonce. Et c'est vraiment bien fait, parce qu'encore une fois, c'est super bien réalisé. Même Steve Carell, que j'aime pas en tant qu'acteur, bah là, je le trouve très bon dans le film. Tous les second rôles, ils sont bons. Alors après, on va me dire, ouais, Deka, bah, dès que tu parles d'une recommandation de film, tu trouves que même les second rôles, ils sont bons. Non, dans Amadeus, que j'avais dit au mois de décembre, ils étaient excellents. Là, ils sont bons. Vous voyez, je baisse d'un cran. Et globalement, c'est plutôt très bien réalisé. Donc, un film à aller voir, soit au cinéma ou en support physique ou en location. Mais un film très sympa. Et puis bon, bah, faut soutenir Robert Zemeckis, parce que pour moi, c'est un réalisateur mythique. Et quand il fait des bons films, faut le reconnaître, parce qu'il a fait quelques mauvais films après Forrest Gump. Donc là, c'est un film qui est dans la même lignée, peut-être pas aussi bon, mais pas loin. Donc, un film que je peux recommander à voir, peut-être pas en famille, mais ouais, avec
plutôt,
des ados.
Plutôt pour les papas, plutôt pour les parents.
Famille,
plutôt...
mais avec des ados.
D'accord, ados.
Ouais, ouais, parce que, bah, il y a quand même, bah, c'est pas, c'est les enfants, ils vont pas comprendre la différence entre les poupées et le monde réel, parce qu'il y a quand même une certaine violence avec les poupées. Parce que voilà, il y a des poupées méchantes. Parce que s'il y avait ces, voilà, tout le but du monde des poupées, c'est qu'elles défendent de ce fameux boss. Toutes ces femmes là, elles sont armées, elles ont des armes. Il y a d'autres méchants en plus de la sixième ou septième poupée qu'on voit pas dans la bande annonce. Donc il y a cette poupée là et il y a d'autres méchants. Et ces autres méchants là, bah, il y a des moments, ils se font un petit peu zigouiller de manière un petit peu pas très gentille, quoi. Ils se font empaler, ils se font couper la tête, ils se font couper des bras, ils se font couper des jambes et tout ça. Et un enfant, il va peut-être pas comprendre que c'est des poupées.
Du coup,
parce qu'il y a une ambiguïté avec de la violence psychologique, de la violence réelle tout au long du film. On s'alloque vraiment entre les deux.
Mais c'est son inconscient qui parle, en fait.
Bah, je vais pas te le dire, Fabrice, je vais spoiler, donc voilà.
Ouais, mais enfin, c'est sûrement lié à ce qui lui est arrivé. C'est lié à ce qui lui est arrivé, je suppose.
Voilà, de toute façon, cette histoire de poupée et de village belge, c'est autour de son accident. Mmh. Il a voulu se créer une bulle de protection. Et on le voit, de toute façon, même dans le monde réel, on voit qu'il a été impacté, il est un petit peu handicapé à cause de ça. Et tu te dis, voilà, tu sais pas si c'est toujours dans le réel ou dans l'irréel. Donc, et même lui, je pense qu'il ne le sait pas. Tu vois. Et c'est pour ça que ça se l'homme entre les deux. Et même des situations qui te paraissent surprenantes avec ces poupées, il y a un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est vraiment de la violence réelle ou pas? Donc, il y a toujours c'est un peu de l'ambiguïté. C'est un peu de la SF sans en être. Parce que t'as un côté psy. Je vous dirais qu'il y a un peu plus de psychologie que de SF tout le long du film.
Ok.
Mais c'est un beau film de relations humaines. Alors c'est vrai que je peux pas. Voilà. C'est le problème, c'est que si je dis 2-3 éléments, je spoil tout le film. Parce que très honnêtement, le scénario il tient sur 2 feuilles à 4. Hein.
Mm. Et donc il a fait la guerre. Non,
je
sais
pas.
Te
le dire.
D'accord.
Non, voilà. C'était juste pour savoir si. Je peux pas te le dire, tu vois. Non. Faut plutôt faire confiance à ceux qui l'ont vu et pas spoiler, parce que voilà, c'est comme si je te disais dans Sixième Sens que à la fin, ben le mec est mort.
Mmh. Non, mais c'était juste pour savoir si c'était un dur.
Oh.
C'est ou s'il a mangé trop de pruneaux.
Non, vu ce qu'il a morflé, ça dure.
Ok.
Quoi qu'il arrive, ça reste à dur. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour.
Ouais, bah, moi je crois que oui. John, t'as quelque chose à rajouter?
Oui. Est-ce que vous avez des recommandations?
Bah, j'en ai déjà fait.
Ça y est, c'est fait.
Fabrice, on a pas eu?
Non, bah non, moi je suis allé voir Astérix pendant les vacances.
Alors, qu'est-ce qu'on a pensé?
Ouais, c'était bien, un bon moment, mais pas inoubliable.
C'est ce que j'avais dit.
Ouais, ça correspond bien à ce que tu nous avais dit. Par contre, j'ai testé un Gaumont, quand même, 12,50€ la place pour avoir le son des popcorn en Dolby Surround et une demi-heure de pub avant, ça valait pas le coup.
Le son des popcorn en Dolby Surround?
Bah, tu sais, dans les gros cinémas, t'as tous les gens qui bouffent et puis t'as du bon son, mais en fait t'entends plus le bruit des gens qui mangent, qui piochent dans leur popcorn que le bruit du film, quoi.
Ah ouais.
Non, c'était, et puis la demi-heure de pub avant, alors que moi je suis habitué à Boulogne, c'est un petit cinéma encore, enfin pour quelques temps parce qu'ils veulent construire un grand cinéma maintenant. Où ta séance elle commence 10 minutes après l'heure et pas une demi-heure après, et t'as pas 10 000 pubs, quoi.
Il y a du popcorn aussi. Cinéma pas loin de chez moi, c'est pareil. Et c'est vrai que ça reste appréciable.
Puis c'est surtout le prix, quoi. Enfin, je sais plus, j'arrive à avoir des prix pas trop chers. Tu peux les avoir pour 6€. Ouais, voilà, 6,50€ quand t'as une réduc ou un truc comme ça. 12,50€ la place de ciné. Quand tu vas en famille, t'as largement payé le prix du film en DVD, quoi.
Ah ouais.
Mais bon.
Ouais, c'est pas le film à aller voir dans une salle comme ça, je dirais. C'est plus une petite salle. Après, tu vas aller voir un Star Wars ou quoi, où tu sais que tu vas profiter du film parce que ça va être un grand écran avec des bons sons et tout, ouais. Bon, tu vas passer un beau, tu vas peut-être, je pense que tu vas mieux apprécier un bon film blockbuster dans ce type de salle-là qu'un film d'auteur.
Ouais, enfin, Astérix, c'est pas un film d'auteur, mais c'est pas, ouais, ça mérite pas spécialement d'aller le voir au cinéma.
Ça mérite pas une grande salle avec un gros écran, mais tu vas aller voir un Star Wars. Tu vas peut-être plus apprécier ça qu'une salle où...
Ouais, mais tu vois, par exemple, l'an dernier, on avait vu le Star Wars 7. On l'avait vu le 7 chez mon beau-frère, qui l'avait, loué en VOD pour Noël. Et juste après, il y avait le 8 qui était sorti, ou il était sorti juste avant, donc après, on est allé le voir au ciné.
Ouais.
Bah, finalement, le 7, c'était bien sympa, au coin du feu, tous ensemble. Que le 8 au ciné, bon, c'était pas... Bon, après...
Bah, le 8, il pose polémique, hein. Après, pas parlé du... Voilà.
Ouais.
Le 8 pose polémique, hein.
Bah, après, c'est vrai que moi, j'ai préféré...
Les 2 heures de piou-piou dans l'espace...
Ouais, il y a des gros... Il y a des trucs un peu gros, un peu... Moi, j'ai préféré...
La force de Leia qui vole dans l'espace en étant sans oxygène.
Ouais, cette scène-là, elle est quand même assez... Parce que je me suis dit, bon, en fait, elle est morte, donc ils l'ont fait mourir. Mais non, même pas.
Bah, je sais. Attends, elle est décédée... Oh non, elle est décédée avant ou après la sortie?
Non, juste après elle est sortie... Ouais, mais ça avait déjà été tourné.
Je crois qu'elle est décédée juste après la sortie du film.
Non, ça avait été ça avait été tourné.
Le film, il n'était pas sorti, mais c'était déjà tourné. C'était en post-prod, quand elle est morte.
Moi, je me suis dit, ils ont fait la scène pour qu'elle puisse mourir et qu'ils aient plus besoin d'elle pour la suite.
Ah non, elle revient dans le 9.
Ouais, bah oui, elle revient à la fin, donc ouais.
Ouais, et puis elle revient dans le 9.
Ouais.
Bon,
bref.
Ouais, ça. Il y a même sa fille dans le 7 et le 8.
Ouais, ça tourne un peu au vinaigre. Ouais. J'ai pas vu Solo, je vais. Il est à la médiathèque, on va le regarder tranquillement sans dépenser trop de sous.
C'est ce que j'allais te dire. Va le voir à la médiathèque, tu me diras ce que t'en penses. Hein.
Ouais.
Voilà. Des crossovers Star Wars, Rogue One et même globalement. De tous les Star Wars que je parle de ceux que j'ai vus au cinéma, hein, c'est Rogue One le mieux. Même John, on en avait parlé à l'époque, John, je crois qu'il avait été au cinéma aussi. Et t'avais dit, mais purée, Rogue One, le mec, il s'est fait plaisir, quoi. Le réalisateur, il dit, je fais un Star Wars, il y a une demi-heure de blabla, mais il y a 2 heures d'action, quoi.
Ouais, il y a de l'action, il y a de l'humour, c'est sympa. Quoi. C'est sympa, mais bon, après,
enfin, faut pas réfléchir, hein.
Ouais, voilà, il n'y a pas tellement de but, quoi. Il n'y a pas tellement de but.
Non. Parce que disons que tu sens bien la patte Disney dessus par rapport au premier.
Mais bon, voilà, c'est.
Du coup,
puis
tu
quand tu vas
du
voir un
16 ou
Star Wars,
Rogue
Rogue One, ouais.
Ah non,
avec
moi
la
j'ai pas
petite
senti
bestiole.
la patte Disney dans Rogue One. J'ai plus senti la patte du mec qui savait qu'il faisait un Star Wars dans sa vie, qui s'est fait plaisir, quoi. Le
Avec la
8,
petite.
J'ai plus senti la patte Disney.
Ouais,
oui, le 8, 8.
Et le 7, on l'avait
le
déjà
8
senti.
Avec la pluche. Avec
voilà.
La pluche.
C'est le 7, on
où
fait un maxi best-of 4, 5, 6 pour faire plaisir à tout le monde. Et
ouais.
Le 8, on va essayer de pas trop embrouiller tout le monde.
Bah, il y avait certaines petites blagues, genre pipi caca, et puis autour de l'oiseau, où tu retrouves bien la patte de Disney, quoi.
Ouais.
L'espèce de piaf oiseau, là, je sais plus comment il s'appelle, qui va emmerder Chewbacca, bon. C'est du titier gros minet, quoi, tu.
Par contre, ceux qui aiment bien Chewbacca et qui veulent se faire plaisir avec Chewbacca, qui vont voir Han Solo. Il y a juste ça là, voilà. Ceux qui aiment bien Chewbacca, allez voir Solo. Parce que c'est plus le film de Chewbacca que le film de Solo. Voilà, j'en dirai pas plus. Hein. Quand tu iras le voir à la médiathèque, tu penseras ce que je te dis, Fabrice. Quand tu vas prendre à la médiathèque. Tu vois, c'est pas Han Solo, c'est Chewbacca.
Bah, ils sont inséparables aussi. Hein. Enfin, on les voit toujours ensemble, globalement.
Ah ouais, mais non, mais... Là,
On en sait plus sur Chewbacca que sur Han Solo.
Non, non. Le problème de Solo, je vais pas, tu vas voir, je vais pas spoiler ou quoi, mais tu vas te dire, bon, on en met 10 fois de trop. En fait, c'est parce que, tu vois, t'as des personnages qui sont mythiques parce que tu sais pas qui c'est. Et, par exemple, dans Star Wars, il y a Boba Fett. Tu vois, Boba Fett, personne sait qui c'est. Voilà. Ou si tu lis l'univers étendu, c'est un chasseur de primes, quoi. Mais quand tu vois le costume, le truc est super stylé, le casque, semi-chromé avec du rouge et du vert et tout, tu dis, waouh, la classe et tout. T'as pas besoin de savoir plus. Un mec comme un Solo, déjà, c'est Harrison Ford. Voilà. Et toi, bah, t'es à peu près de la même génération que moi. Han Solo, c'est Harrison Ford.
Bah oui.
Avec son pantalon un peu slim et son bas un peu pas de def.
Ouais, et puis c'est de la gueule de balle.
Sa blanche et son petit gilet en daim.
Ouais,
c'est Han Solo, c'est Harrison Ford.
Ces petites répliques un peu misogynes et tout.
Voilà. Voilà.
Je sais.
C'est pas un acteur allemand qui fait ce qu'il peut, hein. Il joue pas si mal que ça. Mais, c'est pas Han Solo. Voilà. C'est un acteur allemand qui veut faire Han Solo. Par contre, Chewbacca, c'est toujours un géant qui fait 2,20 m avec des poils.
Et qui fait un bon cri.
Voilà. C'est Chewbacca.
Qu'est-ce que tu dis, Choui? C'est l'heure de la transition.
Ah ouais.
Oui, c'est l'heure de la transition. Qu'est-ce que tu nous recommandes, John?
Eh ben moi, comme j'ai commencé, je vais faire la recommandation comme j'ai commencé, c'est-à-dire avec du rhum. C'est la série de documentaires qu'a fait J-Star sur Viceland, la chaîne de télé. C'est La Route de la Soif. Ouais, c'est J-Star. On le suit. En fait, il a fait toutes les Caraïbes, d'où le nom La Route de la Soif. Et t'apprends au fur et à mesure des histoires. Là, c'est la saison 2 qui est sortie. Il y a quelques épisodes 10 pour le moment sur YouTube. Je dis pour le moment parce que c'est pas la chaîne Viceland qui les met à dispo.
Ouais, donc
peut-être que ça va être retiré. Ou alors, parce que les deux premiers épisodes ont déjà été effacés. Non, non, effacés.
Ah.
Mais, ou alors si vous avez Canal Plus et Viceland, vous pouvez peut-être les regarder en VOD. En tout cas, ça allait avoir, on apprend plein de choses sur le rhum. Là, ils sont partis à Haïti, aux Bahamas, Cuba, et on apprend plein de choses. Ça reste du J-Star, donc fidèle à lui-même, il déconne, etc. Mais on apprend plein de choses, tout en regardant de bonnes boissons. C'est, ma foi, fort agréable. Donc on voit Haïti, c'est l'un des, je crois que c'est l'épisode qui m'a le plus marqué. J'ai regardé que les 4 premiers. Et on le voit discuter avec un auteur de connu haïtien, j'ai oublié le nom, qui fait aussi un sport de combat qui s'appelle le bâton.
Ouais.
Et voilà, il fait le tour des gens qui sont restés là-bas sur l'île d'Haïti, même après tout ce qui a été là-bas, là, non, c'était pas un tsunami, enfin les catastrophes,
les
etc.
Tremblements de terre.
Ah, le tremblement de terre, etc. Les différents avis là-dessus sur ceux qui partent à l'étranger, les investissements étrangers, enfin, tout ce qui est la Croix-Rouge, etc. Donc on a entendu parler il n'y a pas longtemps comme quoi et c'était pas très clair leur histoire avec les sous qu'il y avait eu là-bas. Et voilà, c'est intéressant tout en le voyant déguster de bonnes petites comment dire
Composition.
de bonnes petites compositions. Et voilà, c'est franchement, c'est voilà. Même si on n'aime pas trop Joystar, là ça lui donne un œil un regard différent. Il fait toujours un peu de provoque, mais c'est plus dans l'esprit documentaire, quoi. Disons qu'il se pose de vraies questions. Dans l'épisode aux Bahamas, il rencontre comment il s'appelle? Un acteur connu qui est originaire de là-bas, qui lui fait visiter le côté le vrai Bahamas, j'ai envie de dire. Comme lui l'appelle, c'est-à-dire ce qui se passait avant que ça soit comment on appelle ça? Un paradis fiscal, quoi. C'est-à-dire les vrais quartiers pauvres, toute l'histoire, ils finissent quand même par aller chez un tavernier, on va appeler ça comme ça, j'ai oublié le nom. Quelqu'un qui a des bonnes anciennes bouteilles, etc. Il fait goûter, commence à discuter là-dessus. Et donc voilà, c'est très court les épisodes, hein. C'est format télé, donc c'est 45 minutes, je crois, ou 30 minutes par épisode. Et voilà, c'est vraiment à regarder, on apprend plein de choses, même si ça nous intéresse. Bon, le sujet
Et est-ce
principal,
qu'il y a
c'est
un
voir un coup
côté
autour
un
du rhum.
peu, alors j'ai pas vu les épisodes, mais est-ce qu'il y a un côté un peu revendication sociale sur sur la création du rhum et tout ça, ou c'est
Oui, c'est ça.
vraiment,
Oui, c'est ça.
ouais?
En fait, si tu veux, il fait le tour. Bon, il boit un coup. Et à chaque ville, enfin, chaque pays, chaque endroit où il y a du rhum, il explique l'histoire qu'il y a eu avec. Par exemple, dans la saison 1, il avait fait la Guadeloupe, la Martinique, etc. Donc, il expliquait ce que c'était les béquets, tout ce qui est. En fait, il a posé les piliers dans la première saison où il expliquait que le rhum, ça restait, comment dire, que le rhum et la traite des esclaves, ça restait les deux faces d'une même pièce, en fait. Que par rapport à l'histoire, c'est vraiment un truc à regarder. En fait, ils expliquent bien que le rhum, ça servait aux marins et que ça servait de monnaie d'échange avec les esclaves, etc. Pardon. Là, je raccourcis vraiment le truc, mais
Non. Après,
c'est
faut
ça, c'est
laisser
vraiment
prendre
un
ceux
truc.
qui veulent regarder, hein.
Voilà, c'est là, et puis même c'est grossi parce que c'est pas aussi vraiment binaire que ça, quoi. Mais voilà. Et ça permet de voir un Joystar plus.
Plus posé,
Ouais, enfin bon.
plus
Voilà.
détendu,
C'est. Ouais.
qui va
Enfin
moins
bon.
frapper sur les gens.
Non. Mais par contre, au moins, bon, voilà, les bouteilles, ils les enchaînent. Puis on le voit discuter avec les gens et voir vraiment qu'ils cherchent à comprendre, tu vois. Et que c'est pas le côté. La route de la soif, le côté genre on va boire un coup, finalement il sert que de prétexte à aller rencontrer des gens de d'autres pays, etc. pour en apprendre sur le pays, quoi. Et
D'accord.
petit spoiler, dans l'épisode il y a un épisode sur Cuba où il fait le tour avec Eric et Ramzi. Et non, Ramzi, pardon. Il invite Ramzi à l'accompagner.
D'accord.
Donc, si ça permet de faire une belle transition et d'en apprendre davantage sur le rhum et toute l'histoire coloniale de toutes les petites îles autour des Caraïbes, quoi. Faisant le pont entre le nouveau continent et l'ancien continent de l'Europe.
Le rhum, c'est une boisson de pirate.
Et oui.
Donc, c'est la boisson des hackers aussi.
Et voilà.
Oh là là, mais Fabrice, qu'est-ce que tu... Mais un vrai professionnel, hein. Un vrai
et professionnel.
Donc... Et France Inter, ils vont être cotés l'année prochaine, hein, Fabrice.
Ouais, avec
t'es le seul à savoir faire une transition ici. Ça fait 200 qu'il est là, nous on arrive avant lui. Moi j'ai 14 ans de podcast, il sait pas les faire mieux. Ici il les fait mieux que moi. Hein. Je suis jaloux.
Bon. On a fini en fait, il y a plus de.
Non, c'est fini. C'est sujet, pour ça, alors, c'était la conclusion, c'était le mot de la fin.
Voilà. Et oui, enfin, sauf on, si va parler, une... on va pas parler l'éclipse de lundi, on aura peut-être pas fini de monter l'épisode. Donc voilà. Donc, je pense que c'est très bien.
Bah oui, comme voilà. Ça, on est presque à 2 heures, on n'aura pas dépassé.
On n'aura pas dépassé. Et on vous souhaite, ouais. on dit quoi pour le mot de la fin, garder la pêche.
Ouais.
Et en février.
Et mangez pas trop de prénoms.
Voilà. Et si Fébelfond et Cédric ils veulent participer, parce que je viens de voir qu'il y a des petits. Il y a un petit peu de petits coups de gueule sur le Twitter. Bah, n'hésitez pas à nous envoyer un MP. On fera un sondage pour que vous puissiez participer au prochain épisode.
Et c'est venez nous rejoindre sur Discord.
Ou sur Discord. On est toujours ouvert. Vous nous dites, on veut participer, on essaiera de trouver une date. Voilà. Surtout et que puis, mon petit doigt me dit que février, il risque de pas avoir beaucoup de monde pour l'épisode. Donc, oui, je l'ai dit en antenne, John.
Disons, ah oui, il y aura pas le chef, donc on pourra
faire des conneries. Il y aura certainement conneries. Pas le chef, donc voilà.
Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, voilà. À venir échanger avec nous sur le Discord. Vous trouverez les liens dans la description. Ça vous permettra de venir discuter avec nous, de savoir des petites infos qu'on balance pas tout le temps ici. Et puis si vous voulez nous rejoindre, discuter avec nous, eh ben on pourra vous faire passer un petit test, un petit bisutage sur le Discord, voir si vous
méchant.
Tenez le coup.
On est méchant sur le Discord normalement. Surtout Fabrice.
Ouais.
Un vrai tortionnaire. Hein. J'ai passé le supplice de la roue. J'ai passé plein de trucs différents, donc faut se méfier. Hein.
Et parfois dans des endroits où on n'est pas sûr que ça passe. Hein.
Ah oui.
Mais blague à part.
Oh là là.
Mais ça, tu vois, il faut pas expliquer ça sur l'enregistrement parce que voilà. Il faut.
Ah, bon, pour donner une idée, c'est l'histoire de deux caca qui rencontrent un moule et puis.
Ah mais là c'était en allusion. C'était on en a discuté avant de commencer et comment ils peuvent comprendre les pauvres. Ouais. Sauf s'ils ont vu l'apéro du capitaine. Enfin, sauf s'ils ont écouté l'apéro du capitaine.
Voilà. Le dernier en date, celui de décembre, dans la section What's Up. Voilà.
Voilà.
Allez, écoutez le podcast.
Sur ces bonnes paroles, on aura peut-être validé la fin.
Ouais. Puis, oubliez pas les 100 commentaires.
Ouais, et si vous avez les 100 commentaires pour le Raspberry Pi Model B.
Voilà. Et si vous avez écouté jusque-là, bah, vous mettez What's Up.
Ah ouais, what's up dans le commentaire.
Voilà.
5 étoiles plus sur être.
On n'est pas encore sur iTunes.
On n'est même pas sur iTunes. Est-ce que c'est un projet pour 2019?
Peut-être.
Si tu sors la tête de l'eau.
Ouais, exactement. Quand j'aurai fini mes autres projets. Bon. Allez. Sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va finir et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, ça dépend de l'heure que vous continuez. Surtout gardez la pêche et merci de votre écoute. Et à bientôt tout le monde. Salut, salut!
Salut!
Salut!